On a clairement un passionné qui est arrivé parmi nous. N'est-ce pas, Mathias Turcotte?
Oh yeah!
Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Ton émission du midi, de midi à 14h, du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi, c'est le caucus Iacarini à cette heure-là. De midi à midi 30. Mais le vendredi, notre chère Antonine, qu'on adore, est en congé.
Bien mérité.
Bien mérité. Elle est ailleurs. Si vous suivez RDI, chaque vendredi après-midi, elle est avec Gérald Filion sur les ondes de RDI pour analyser la politique aussi bien qu'elle le fait à Boulevard. Quoique je la trouve bien meilleure à Boulevard qu'à Radio-Canada. Non, c'est pas vrai. Mais là, quand je dis qu'on a un passionné dans la salle, c'est parce que Farnell Morissette est avec nous. Farnell, comment vas-tu?
Je vais très bien. Comment ça va?
Ça va super bien. Farnell qui rentre, qui dit « Maud Tadine, j'arrête pas, moi, de faire des n'importe... »
T'es gentil d'avoir censuré mes vrais mots,
des
j'apprécie.
Séances, je fais des séances de constitution... un peu partout à travers la province en leur disant « Ça s'en vient, la constitution, ça s'en vient. Regardez, c'est quoi une constitution? » Puis là, tout le monde est surpris que Simon-Jolin Barrette dise « Hey! » J'amène ça, moi, la Constitution au Québec. Fait que ça n'a pas d'allure, mon Farnell. T'es fâché, là?
Ben, je suis pas fâché. Je suis juste, tu sais, je comprends qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'actualité, mais moi, j'ai comme l'impression d'être celui qui sonne l'alarme depuis des mois, qui dit, tu sais, prêtez attention à ça parce que ça s'en vient. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, puis il faut pas les laisser faire n'importe quoi.
C'est ça.
Puis là, on se réveille hier matin, puis bon, ben, clairement, j'en ai pas fait assez.
Mais non, t'as clairement, Clyde. Une mauvaise note au bulletin de
Farnell. Non, mais je le dis sans égo, là. Je veux dire, je prétends pas avoir la portée de à moi tout seul, non, changer de ce qu'on parle. Mais c'est juste, tu sais, des fois, c'est frustrant à réaliser qu'on peut passer autant de temps, autant d'énergie, puis c'est comme une goutte d'eau dans l'océan.
Et là, on a Lambert Drainville qui est avec nous par Zoom parce qu'on se fait un petit one-two-punch pour commencer l'émission. Lambert Drainville, comment ça va?
Ça va très bien, très content d'être avec vous autres et de retrouver mon cher ami Farnell.
Ben c'est toujours le fun.
Et là, moi, j'aime bien raconter les coulisses de la radio. Lambert m'appelle hier vers 4h45, alors que mon ado venait de m'appeler pour me dire « Hey, Pat, je m'en vais travailler, mais j'ai oublié mon gilet du IGA chez vous dans le panier à lavage. » Fait que là, j'étais en train d'aller chercher le gilet du IGA pour mon fils avant d'aller souper avec ma blonde. Et Lambert m'appelle et me dit « Je viens de parler pendant une demi-heure de constitution avec Farnell. » Fait que là, je m'imaginais déjà la conversation. Je me disais, deux crackpots de politique, non même deux vulgarisateurs, j'aurais voulu entendre cette conversation-là. Et là, Lambert m'a dit, ben, tu vas l'entendre, on va le faire ensemble à ton show demain midi. J'ai dit, ben, let's go, on fait ça.
J'apprécie que tu aies accepté qu'on te dise ça va être quoi ton show aujourd'hui.
Moi, je suis toujours ouvert aux bonnes idées, c'est une excellente idée. Fait que merci, Lambert Drainville, ton appel.
Ben écoute, c'est un grand plaisir. On devait se parler à 13h, fait qu'on va faire ça une heure plus tôt, puis on va faire ça en quatuor. Ça va être encore mieux, ça va brasser encore plus la soupe à idées.
Exactement. Avant, Mathias, il y a de la circulation, et je veux que tu nous rappelles la grosse nouvelle politique à Québec. Il y aura, somme toute, rencontre entre Respect citoyen et Leadership Québec pour une fusion des deux partis dans le but d'aller battre Bruno Marchand et son projet de tramway.
Oui, tout d'abord, je commence avec la circulation. Présentement, sur Henri IV, direction nord, à hauteur de rue Einstein, il y a un accident, voie de gauche présentement bloquée, ce qui cause un ralentissement. Là, on parle Henri IV, ça remonte un peu plus loin, là, un peu plus loin que Charest présentement. En parlant de Charest, en arrivant par Henri IV, vous rencontrez un ralentissement qui va jusqu'à Robert Bourassa en direction est, capitale direction est également. Ralentissement à prévoir lorsque vous arrivez d'Henri IV, ça va à hauteur jusqu'à hauteur de Robert Bourassa également. Capitale direction ouest à hauteur de Laurentienne, ralentissement à prévoir aussi. Et le gros ralentissement présentement, c'est sur la 20 en direction ouest, c'est entre Président Kennedy et Taniata présentement. Si vous avez des informations, 418-971-1021. Jeff, tu l'as dit, oui. Stéphane Lachance, ça a été un peu surprenant ce matin, ça a été appris tout d'abord dans le Soleil qu'il y avait des rumeurs comme quoi les deux partis pourraient avoir des discussions pour une future collaboration. Bien, ça a été confirmé par Stéphane Lachance auprès du Journal de Québec qu'il va essayer de planifier une rencontre avec Leadership Québec pour déposer une offre dans laquelle, selon lui, tout le monde y trouve son compte, même tous les candidats des deux équipes. J'ai du mal à voir comment c'est possible une offre de possible collaboration où tout le monde en trouve son compte, mais c'est ce qu'il dit. Le but, ce serait d'unir les deux forces anti-tramway présentement principales à Québec. Et du côté de l'équipe Samamad, présentement, on dit que le canal de communication a toujours été ouvert.
Stéphane Stéphane Lachance qui va être avec nous aux alentours de 13h en studio du côté de l'équipe Samamad. Tu l'as très bien dit, de mes sources sûres. On va écouter la proposition de Stéphane Lachance du côté de l'équipe de Samamad. Ça tombe bien, on a un juriste en onde avec nous, Farnell Morisset. Farnell, ça se fait-tu réunir deux partis politiques qui se sont inscrits auprès du directeur général des élections en pleine campagne électorale?
Il y a pas vraiment d'obstacle légal à ça. Je veux dire, les partis politiques sont plus des espèces de convenances électorales qu'autre chose. Jusqu'au jour du vote lui-même, les gens peuvent se désister s'ils veulent. Alors, on s'imagine que s'il y a une espèce d'entente privée entre les deux partis pour se diviser les circonscriptions électorales, les gens peuvent se désister de la course, mm-hmm. Ceux qui n'ont pas été les élus choisis, les heureux choisis pour rester candidats. Après ça, une fois que les gens sont élus, les élus ont le droit de s'organiser comme ils veulent dans les partis politiques, les regroupements politiques qu'ils veulent à la mairie. Alors, c'est vraiment plus un enjeu politique qu'un enjeu légal.
Parfait. Lambert, toi qui es un ex-stratège politique, tu as travaillé en politique, t'accepterais-tu ça si tu es un candidat, par exemple, dans Beauport? De te faire dire « Ouais, c'est-tu quoi? Ça sera plus toi, ça va être l'autre parce qu'on fusionne ensemble? »
Ben, c'est ça le défi qui vient avec ça. C'est une bonne idée, disons, en principe présentement, surtout considérant que, selon les derniers chiffres, Bruno Marchand a accentué son avance sur les deux chefs de parti qui le suivent. Donc, sur papier, ça peut être une bonne idée de dire, ben, écoutez, on va additionner nos intentions de vote puis espérer dépasser Marchand au fil d'arrivée. Mais c'est ça, dans la pratique, après ça, il faut que tu t'entendes avec les gens qui ont accepté de faire campagne sous ta bannière, qui ont accepté de représenter tes couleurs. Et moi, j'ai tendance à penser que dans certains cas, ça se peut là, qu'il y ait certains de ces candidats-là qui ne le prennent pas comme une lettre à la poste, puis qui disent « Écoute, mon cher, moi, non, ça ne me tente pas. » Puis là, ben, c'est de la gestion humaine, comme c'est souvent le cas en politique. Et donc, c'est une bonne idée en principe, mais une fois qu'il faut que tu l'appliques, ça peut se compliquer. Et ça en dit long, par contre, sur disons, l'état d'esprit dans le parti de M. Lachance et le parti de Samamad sur leur chance de revenir dans cette course-là d'ici le 2 novembre.
Oui, mais c'est ça. En même temps, chacun en tant que chef, autant Stéphane Lachance que Samamad, tu t'avoues vaincu. Puis là, t'en mets un comme chef, mais les deux chefs, en bout de ligne, s'avouent vaincus avant le résultat du vote.
Bien, clairement, s'ils vont de l'avant avec une stratégie de la sorte, c'est qu'ils pensent pas qu'ils peuvent l'emporter en solo. Quand t'additionnes leurs intentions de vote, Bruno Marchand était à 29, Stéphane Lachance était à
13, Samamad 18. Fait qu'ils sont 2% en avant de Bruno Marchand.
Je pense pas que le calcul est aussi simple que ça, par exemple.
Exact. Ça, c'est l'autre affaire. Là. Vas-y, Fernand.
C'est un peu comme dire si on additionne tous les appuis de Québec solidaire puis tous les appuis du PQ, ça forme un gouvernement hyper majoritaire. Je pense pas que tous les électeurs de Québec solidaire seraient prêts à se joindre au PQ, tout comme l'inverse. Je pense qu'on peut voir un peu la même chose au niveau municipal. Je pense pas que tous les électeurs de Leadership Québec vont être prêts à accepter une fusion du genre, tout comme de respect citoyen. Je veux dire,
ben, c'est pas aussi simple que ça. C'était exactement ce que je pensais, parce qu'il y en a dans Leadership Québec qui est viscéralement Stéphane Lachance. Mmh. Donc, si Stéphane Lachance devient chef de ce regroupement-là, t'es père. Il y en a dans Respect citoyen qui est viscéralement Samamad. Fait que l'inverse est le même. Ouais. Si tu mets Samamad, tu les perds. Puis ça, c'est des franges de 4, 5, 6, 7, peut-être 8 % là, de l'électorat de chacun. 418-971-1021, puis là, je vais prendre l'exemple de Christian qui dit, est-ce qu'on va l'appeler respect leadership ou leadership citoyen? Je voulais choisir. J'aime mieux leadership citoyen, mais 418-971-1021, voteriez-vous pour un regroupement entre respect citoyen et leadership Québec, peu importe qui est le chef? Donc, 418-971-1021, on fait un petit sondage maison. Je rappelle qu'on reçoit Stéphane Lachance à 13h.
Mais c'est surtout qui serait le chef, justement, là, parce que du côté de Samamad, ça m'étonnerait bien gros qu'on voudrait se retirer. Du côté de Stéphane Lachance, ça m'étonnerait bien gros aussi qu'on voudrait se retirer. Mm-hmm. Mais dans un cas de coalition, dans un cas de regroupement entre les deux partis, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui laisse sa place.
Alors, je dirais à moins qu'on arrive à une espèce de situation farfelue, d'espèce de co-mairie, mais je pense pas.
Mais ça se pourrait-tu, une co-mairie?
Non, il faut qu'il y ait un maire, mais je veux dire, il pourrait arriver à une situation genre une personne va formellement porter le titre, mais il va avoir une entente privée entre les deux pour se partager des pouvoirs, je sais pas. Là je fantabule, là. Je pense pas que ça va être ça.
Et puis Jeff, ça serait quoi le jingle? Qu'est-ce qu'on fait avec le jingle?
Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec le jingle de Leadership Québec?
Là, tabarouette, moi, je l'écoute à tous les jours pour me mettre de bonne humeur.
Ça
Leadership Québec, l'étoile renaît.
Ça
l'a. Projet audacieux pour un avenir radieux.
Aucun sens. Présentement, là, je fais un calcul rapide et continuer à envahir le 418-971-101. Je te dirais que 80% des gens, peu importe que ce soit Ahmad ou Lachance, ils disent « Je vais voter pour le regroupement. »
Ben non, ça veut dire que c'est 20% que non.
Mais c'est 20% que non.
C'est 20% que non, ça, c'est pas assez pour surpasser Bruno Marchand présentement.
Exactement. Donc, à voir. Ouais, c'est ça. Vraiment, Bruno Marchand, avec son idée de tramway chez nos auditeurs, il est pas très populaire. C'est ainsi. Bon, jason constitution, mes amis, parce que Simon Jolin Barrette a déposé son projet de constitution. Puis en passant, il revient, là, je vous le dis, Stéphane Lachance à 13h avec nous, a déposé son projet de constitution hier. Bon, ça fait pas l'affaire des oppositions. Marois Risquier a dit, ben on est pour une constitution Parti libéral, mais une constitution où... on va en jaser, ça va faire consensus, on va parler au peuple, on va parler entre les différents partis, ça sera pas un dossier partisan. Et du côté de Pascal Paradis, autant l'Assemblée nationale hier qu'en ondes ce matin avec nous, a dit « la Constitution va venir avec le pays ». Farnell, je te cède la parole. Qu'est-ce que tu penses du projet de Simon Jolin Barrette et de la CAQ?
Ben, je veux dire... te souviens-tu, toi, en 2022, avoir écouté un débat sur est-ce qu'on fait une Constitution ou pas?
Lors de la campagne électorale, ouais. Non, on avait plus débattu de troisième lien.
Te souviens-tu, est-ce que c'était dans le programme électoral de la CAQ de faire une refonte fondamentale du contrat social québécois dans la Constitution?
Mais je te dirais que non. Puis Lambert, t'étais, toi, justement, à l'intérieur des murs de la CAQ. Hein? On en parlait-tu à l'intérieur des murs de la CAQ?
Ben là, il peut pas le dire, là, quand même. Tu peux pas lui demander ça, là.
Ah, c'est tellement chiant de commenter ça de même.
J'avoue, je m'excuse.
Non, sérieusement. Oui, c'est ça. Je tiens à dire que je suis désormais... j'ai quitté depuis un bon moment. Je suis désormais le plus impartial du monde. Mais non, on en parlait pas à ce moment-là.
Non, mais pour moi, ce qui m'écœure avec ça, c'est que même si quelqu'un lit le projet de loi, je l'ai lu au complet. Bon, j'ai pris le temps hier, je l'ai lu de A à Z, le projet de loi. Il y a bien des choses là-dedans qui font bien du sens. Okay? Ouais. Je ne veux pas donner l'impression que je suis
en
train de...
Non, en effet.
Énormément de choses là-dedans qui ont bien du sens. Il y a des choses là-dedans qui sont des gros, gros, gros problèmes. Des problèmes qu'on aurait peut-être pu régler s'il y avait eu des consultations, des discussions au préalable. Mais même si c'était une constitution que tout le monde était d'accord pour dire « Ouais, ça, c'est excellent. » Est-ce que ça justifie qu'un gouvernement actuellement nous l'impose le fondement du contrat social, des relations de pouvoir au Québec, sans nous consulter? Je veux dire, c'est un gouvernement qui, présentement, tout indique qu'il serait rayé de la carte électorale si l'élection avait lieu demain matin. Un des gouvernements les moins populaires de l'histoire récente du Québec, qui n'a pas un mandat électoral pour faire ça, on n'a pas voté pour ça, c'était pas dans leur plateforme, qui va nous le sortir de son chapeau, qui annonce déjà la date que le projet de loi va être adopté, alors je veux dire, pour eux, c'est un fait accompli, sans nous consulter. Je veux dire, c'est une approche qui, même si on est d'accord avec le projet de loi, l'approche est hautement autoritaire. C'est une approche qui dit... tout ce qu'il faut pour changer le contrat social fondamental du Québec, c'est 63 personnes à l'Assemblée nationale qui sont d'accord avec moi, et c'est tout. Mm-hmm. Puis vous, le peuple, là, ben, vous avez juste... vous, le peuple, ouais. La démocratie, c'est aller voter une fois de 4 ans, puis après ça, ben, taisez-vous, c'est plus votre problème. Moi, c'est pas comme ça que je la vis, ma démocratie. C'est pas comme ça que je la veux, ma démocratie au Québec.
Ouais. Lambert, comment tu vois ça? Parce que moi, je me dis, la Constitution, faut que ça fasse consensus un peu, puis là, je vais dans mes souvenirs, comme quand Véronique Yvon au PQ a piloté le dossier de l'aide médicale à mourir.
Oui, absolument. Écoute, il y a beaucoup des éléments que Farnell a soulevés qui me dérangent moi aussi, sur lesquels je me pose des questions. La vérité, par contre, c'est que pour me faire l'avocat du diable, on vit dans un système démocratique où on va voter aux 4 ans. Et lorsqu'on vote, comme on l'a fait, je veux dire, rappelez-vous, messieurs, le 2022, la CAQ rentre avec un score qui est historique en termes d'élus, en termes de pourcentage de vote, une grosse marque de confiance des Québécois envers eux. Ça a effectivement beaucoup changé, mais le système dans lequel on fonctionne, le système qui est le nôtre, qui est tellement imparfait, je suis d'accord avec toi, Farnell, permet ce genre de choses-là. Je pense que la réflexion du côté du gouvernement, parce que comme Farnell, j'ai lu évidemment le projet de loi, et je pense que dans ça, il y a beaucoup, effectivement, de bonnes choses. Et je pense que si tu avais à demander aux Québécois de se prononcer sur son contenu, il y aurait un fort appui populaire. Et la réflexion de leur côté, je pense que c'est de dire, écoutez, là, c'est un élément dont on parle depuis plus de 60 ans. Le PQ, le Parti libéral, les gouvernements qui se sont enchaînés ont eu des discussions, des propositions, ont débattu de ce genre de projet de loi-là, puis ça n'a jamais abouti. Et eux autres se sont dit, bien, écoutez, on va le faire, c'est nous qui sommes au pouvoir. Je pense que le premier ministre, bien honnêtement, de ce que j'entends, il est convaincu que c'est la bonne chose à faire présentement pour le Québec.
Oui, parce que j'allais te poser la question, est-ce que c'est la bonne chose à faire pour son parti politique ou pour le Québec? Parce que moi, de l'extérieur, je le vois très partisan. Là. Je le vois très, hey, la CAQ, on est dans le trouble d'un sondage. On va alors jouer le plus possible sur l'identité puis le nationalisme pour remonter.
Oui, bien, c'est sûr que c'est difficile de ne pas voir ça d'un œil stratégique. Mais parallèlement à ça, je suis convaincu que le premier ministre s'est dit, écoutez, peut-être effectivement que c'est ma dernière année en politique et peut-être que présentement, c'est pas ça qui anime les passions et peut-être que la manière suscite des questions. Mais au fond de lui, je suis sûr qu'il se dit, on va le faire. On va être le premier parti à finalement aller de l'avant avec ça. On va mettre en place un processus pour modifier ce document-là qui est quand même flexible. Et donc, si ça veut être modifié par les partis qui sont pas d'accord avec disons, ou le total ou certains détails qu'il y a dans ça, pourront le modifier si jamais c'est eux qui rentrent au gouvernement. Mais on va avoir notre loi des lois, on va avoir notre document. Et dans 10, 15, 20 ans, quand les gens vont penser au legs de François Legault, au legs de la CAQ, eh bien, cette constitution-là en fera partie. Et rappelons-nous, tu m'as donné l'exemple de l'aide médicale à mourir. La loi 101, là, tu sais, qui est une loi hyper consensuelle, là, présentement au Québec, personne la remet en question. À l'époque, c'est juste le Parti québécois qui était en faveur de cette loi-là. Le Parti libéral puis l'Union nationale disaient que c'était quelque chose qui était borderline autoritaire, qui remettait en question les droits des minorités anglophones. Et au fil des années, bien, c'est quelque chose qui est devenu consensuel, qui est devenu un socle sur lequel s'est bâti le Québec d'aujourd'hui et la langue française s'est développée. Fait que de leur perspective, je pense qu'ils voient ça comme ça, mais une chose est sûre, comme le dit Farnell, ils veulent adopter ça avant l'élection.
Farnell, qu'est-ce que tu en penses, toi, du côté de la CAQ? Est-ce que c'est partisan? Ou est-ce que, comme Lambert l'a dit, puis je trouve ça tellement intéressant de la façon que Lambert l'amène, ça va dans le temps se matérialiser pour que tous les partis politiques, tout horizon, y adhèrent?
Ben, je veux dire, tout est possible. Est-ce que dans 30 ans, dans 40 ans, on va regarder ça comme étant finalement une bonne chose? Je veux dire, je sais pas. On a eu bien des faux pas constitutionnels dans le passé aussi. Mais moi, ce qui me marque, puis tu sais, je le disais en rentrant, parce que oui, je suis un peu craqué par ça, parce que je l'avais fait la prédiction en juin que ce projet de loi-là allait sortir, et j'avais fait la prédiction que ça allait être un projet de loi très électoral. Présentement, les items qui sont contentieux dans le projet de loi, c'est des items qui sont très à la couleur des ambitions, des idéologies, puis là, j'utilise pas le terme idéologie de façon négative, là, au terme philosophique, de la CAQ. C'est pas un projet de loi qui va faire baisser les prix des maisons. C'est pas un projet de loi qui va engager des profs. C'est pas un projet de loi qui va régler les problèmes réels actuels.
T'as exactement le discours de Marois Risky hier. On n'a pas réglé rien en 100 ans, on n'a pas réglé rien en éducation. Il y a encore des problèmes de logement, donc pourquoi on s'attaque à la Constitution?
Ouais, tu sais, c'est pas un projet de loi qui va régler les choses pour les 2-3 prochaines années, mais c'est un projet de loi qui va avoir potentiellement un gros impact pour les 2-3 prochaines générations. Puis ça revient un peu à mon questionnement, à savoir, est-ce que c'est 63 personnes qui peuvent décider ça par eux-mêmes? Mais si on parle de façon stratégique, mettons, là,
ouais.
OK? Je vois très bien ça comme étant, de un, c'est un projet de loi qui est hautement symbolique. Alors, c'est un projet de loi qui va attirer beaucoup d'attention parce que ça fait vibrer beaucoup de fibres émotionnel chez les gens.
Comme la charte des valeurs. Comme de la charte Bernard des valeurs.
Si j'étais un gouvernement qui était à son plus bas, qui était sur le bord statistiquement de se faire rayer de la carte électorale, je voudrais une distraction. Je voudrais pas qu'on parle de mon bilan, puis ça fait très bien l'affaire. Puis là, encore une fois, je vais spéculer. Ok, je fais une spéculation. Je suis pas en train de dire que ça va nécessairement être ça, mais je regarde les cartes, je me dis ça pourrait peut-être bien être ça, que on va lancer ce projet de loi là. Projet de loi qui a été fait de façon sans consultation, peut-être pour justement soulever l'indignation des partis d'opposition. Alors après ça, François Legault, d'ici quelques mois, va pouvoir dire « Hey, je pensais que ce serait un projet consensuel, que tous les partis allaient regarder ça, dire « Voyons donc, on veut une constitution depuis tellement longtemps. » Mais clairement, les autres partis politiques ne sont pas prêts à travailler pour l'avenir du Québec. Alors, il va absolument falloir qu'on aille chercher un mandat populaire pour cette constitution-là.
OK, attends une minute. Élection référendaire sur la Constitution?
Moi, je me dis, c'est pas impossible. Et non seulement ça, après ça, c'était François Legault, tu te dis, et moi, en bon homme d'État, je réalise que je ne suis pas l'homme pour porter ce projet-là, parce que ce projet-là, malgré que je veux continuer à me battre, malgré que j'ai encore toute l'intention de représenter les Québécois...
Et que j'ai répété 150 millions de fois que j'allais être là en 2026.
En bon homme d'État que je suis, je réalise qu'il nous faut absolument l'architecte de ce projet de loi-là pour mener ce combat-là électoral. Alors, je cède ma place à Simon Jolin Barrette.
Et Simon Jolin Barrette devient chef de la CAQ. Est-ce que tu as déjà écrit des discours des premiers ministres?
J'ai jamais écrit de discours des premiers ministres.
Parce que c'était touchant.
Mais, tu sais, mettons que... Et parce qu'après ça, là, on tombe dans une élection. On n'est plus en train de faire une élection sur le bilan de la CAQ. On n'est plus en train de faire une élection où François Legault est dans les cartes. Simon Jolin Barrette a été très peu éclaboussé par quoi que ce soit des scandales de la CAQ. C'est un successeur. Je veux dire, regardez le langage corporel de François Legault quand il est autour de Simon Jolin Barrette, on le croirait parler à son dauphin. Je le vois peut-être venir, cette espèce de stratégie-là. Dire, ah, écoutez, on pensait faire un beau cadeau aux Québécois, puis les partis d'opposition ne veulent rien savoir, alors on va faire une campagne électorale référendaire.
Puis là, on peut frapper sur le PQ, référendum, ils veulent nous séparer, mais ils ne sont même pas assez nationalistes pour voter pour notre Constitution.
C'est ça. Puis là, on a complètement écarté de la discussion tout le bilan de la CAQ. On ne parle plus de François Legault, qui est impopulaire. On a maintenant un nouveau chef qui n'a pas été associé au scandale de la CAQ.
Est-ce qu'il y a un bon CV s'il y a de parler d'économie? Non, je fais des blagues là, avec moi. Lambert, t'en penses quoi de ce plan machiavélique-là de la CAQ?
Ben, d'un point de vue, disons, d'un stratège au bureau du premier ministre, ça serait une stratégie qui, je pense, leur permettrait de se donner la plus grande des chances. Parce qu'avec Simon Jolin Barrette, tu as vraiment un vent de renouveau très, très grand par rapport à François Legault. Il est jeune, il est compétent, il n'a pas été entaché, comme disait Farnell, par les différents scandales. Alors, c'est sûr que d'un point de vue de se donner les meilleures chances pour se faire réélire, c'est pas une stratégie qui serait mauvaise. Maintenant, comme je disais plus tôt, moi, je vous le dis, là, de ce que j'entends, ils veulent absolument passer ça avant l'élection. Et... Donc, s'ils passaient avant l'élection, ça pourrait pas être au niveau... Ils pourraient pas avoir... Puis bien, franchement, même si Simon Jolin Barrette arrivait, même si ça devenait une élection référendaire sur le projet de Constitution, est-ce que vous pensez vraiment là, que l'élément constitutionnel, ça parle assez au monde dans l'optique où la CAQ est au bas des sondages pour renverser assez la tendance pour se donner une chance de vraiment l'emporter. Présentement, ils sont... Puis l'emporter de façon majoritaire. Présentement, ils le sont majoritaires. Alors moi, je ne dis pas que c'est une idée qui est complètement impossible. Je pense que c'est certainement quelque chose qui n'a jamais été vraiment discuté. Là, tu sais, je pense qu'il ne faut pas partir de manigance. Ce n'est pas quelque chose qui a été avancé en coulisses. Mais est-ce que ça pourrait devenir une possibilité? Peut-être, mais comme je vous dis, moi, j'en démarre pas. Là, ce projet de loi-là va être adopté avant l'élection. Puis, tu sais, ce qui n'empêche pas quand même de rentrer dans l'élection en disant, ben vous rappelez-vous la Constitution, là, ben, le Parti québécois qui se prétend tellement indépendantiste, nationaliste, n'a même pas voté pour, tu sais, dépendamment. Puis, d'ailleurs, c'est ça, stratégiquement, ouais. c'est quand même un geste assez brillant là, au niveau de comment ça ça met les partis de l'opposition dans un dilemme qui est très, très difficile parce que là, ils se prononcent sur la manière dont ça a été fait.
Il y a juste Ruba Gazal hier qui a fait une sortie complètement contre, mais bon, Ruba Gazal nous a dit aussi que l'heure était grave cette semaine.
Oui, exact. Puis, tu sais, là, ils vont être devant un dilemme, justement. Là, présentement, ils se prononcent sur « il n'y a pas assez de consultation », fait qu'ils se prononcent vraiment sur la forme. Mais la prochaine question qui va venir, messieurs, ça va être sur le fond. PQ, Parti libéral, Québec solidaire, est-ce que vous êtes pour ce qu'il y a dans cette constitution-là? Et comme je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont très, très consensuels au Québec. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre ça?
Puis là, être contre, ben, c'est être contre plusieurs valeurs qu'on veut au Québec.
Ouais, tu sais, donc, je pense que le jeu, ça va être, est-ce qu'on est capable de dissocier les différents éléments? Parce que je pense que dans le projet de loi actuel, il y a un 80% qui fera aucunement controverse à qui que ce soit, mais l'autre 20%...
Quoi le 20% qui fait controverse, selon toi?
Ben, on parle, entre autres, de c'est une constitution qui semble conçue pour aller vers des chicanes avec le fédéral.
Ouais.
Les projets de loi vont jusqu'à la limite du gris du pouvoir, des compétences du Québec à l'intérieur du fédéralisme propose carrément des choses pour lesquelles il faudrait l'aval du Canada. T'sais, le projet de loi veut, par exemple, que le premier ministre soit celui qui recommande qui va être le lieutenant-gouverneur. On renomme le lieutenant-gouverneur officier du Québec. Ça, c'est pas clair que le Québec a le droit de le faire sans l'aval d'Ottawa. On demande que les sénateurs soient nommés par le premier ministre au lieu qu'ils soient nommés par le gouvernement du Canada. On demande que les juges de la Cour suprême, les trois sièges qui sont réservés pour des juristes québécois, soient nommés par le premier ministre. T'sais, on demande que le premier ministre ait énormément de pouvoir.
Ouais.
Beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il y a présentement. Ottawa pourrait dire « OK, ouais, ça me semble raisonnable. On peut se jaser, on peut se négocier une espèce d'entente. Mais je veux dire, la façon de faire ça, c'est d'aller à une table de négociation. C'est pas de présenter un projet de loi puis après ça, se chicaner. »
Non, c'est ça. François Legault souffre un peu peut-être de Trumpisme, fait de l'autoritarisme?
Il veut... C'est une position qui se prépare à des bagarres plutôt qu'à des négociations.
Hey, je termine là-dessus, messieurs, parce que je veux vous entendre. Est-ce que le PQ a fait quelques erreurs cette semaine? Il y a notamment Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est chicané avec Yasmine Abdel-Fadel, la chroniqueuse pour le réseau Québécois. Et hier, il était absent de l'Assemblée nationale parce qu'il avait à son agenda une conférence, un discours dans une université. Est-ce qu'il aurait dû annuler sa conférence puis dire hey, écoute, là, on jase de constitution, c'est important, puis être à l'Assemblée nationale? Lambert, je te cède la parole en premier.
Ouais, ben on a vu un changement de ton, hein, déjà. Ceux qui ont suivi la semaine, là, avant que le projet de loi soit déposé mardi, il était viscéral. Il disait que c'était une bébelle, que c'était une patente à gosse, que ça servait à rien dans le contexte du fédéralisme canadien. Et là, on a vu vraiment hier, quand il était à Chicoutimi, en Scrum, que c'était beaucoup plus dans l'optique de « Ah, vraiment, là, les consultations, il faut que ce soit les gens qui déterminent ce qu'il y a dans ça. » Fait qu'il a déjà baissé le ton parce que effectivement, quand je parlais de mettre les autres partis dans une position inconfortable, le premier étant le Parti québécois, qui est le grand défenseur des valeurs québécoises, qui dit pouvoir, péter plus haut que le trou.
Ça permet l'expression.
Par rapport à la CAQ pour la défense des intérêts des Québécois. Et là, ben honnêtement, il se pogne avec Yasmine Abdel-Fadel. Il est très, très viscéral avant même d'avoir lu le document. Moi, comme je t'ai dit cette semaine, c'est le prétendant au titre. C'est possiblement celui qui va commencer comme le futur premier ministre en attente lors de la prochaine campagne électorale. Il va falloir qu'il apprenne à s'élever, à être en hauteur et à choisir ses combats. Il ne peut pas commencer à se chicaner avec n'importe quel chroniqueur à chaque fois qu'il est critiqué dans les médias en répondant à un texte de 2 pages sur Twitter, parce que quand il va être le prétendant, ou encore pire, si un jour il devient premier ministre, il va en avoir à tous les jours de ce genre d'attaque-là.
Clairement. Farnell, t'en penses quoi? Est-ce que le PQ a une mauvaise semaine?
Je Écoute, je veux pas donner des conseils à M. Plamondon. Ouais. Il est très bien conseillé, j'en doute pas. Mais je vais parler de moi.
Oui.
Ça, parce que moi, ça m'arrive souvent, je vais enregistrer ou je vais écrire sous la passion, mais j'ai toujours l'habitude de réviser dans le calme. Puis c'est très bien d'écrire, de produire, de créer quand on est sous le coup de l'émotion de la passion, parce que souvent, ça ressort mieux. Mais il faut se réviser dans le calme par la suite. Et j'ai l'impression que ça, c'est peut-être un élément qui manque dans plusieurs des publications récentes de M. Plamondon. Des genres de choses que s'il s'était donné un 24 heures ou même un 12 heures, il aurait peut-être modéré certains propos. T'sais. Je comprends, je pense que c'est parfaitement légitime de la part d'un chef de parti de dire « je pouvais pas être là parce que j'avais déjà quelque chose à mon agenda ». Parfaitement légitime, absolument, je suis d'accord avec lui. Mais on voyait aussi qu'il y avait comme une espèce d'élément de « ben là, le premier ministre aurait dû nous le dire que ça s'en venait, puis je veux dire, moi, j'ai pas à soudainement changer mon horaire parce que le premier ministre a déposé un projet de loi.
Ouais, »
Non, c'est ta job de changer ton horaire quand le premier ministre dépose un projet de loi.
Ben, c'est ça, tu
sais. Attends, là. Hey, à l'interne, là, tout le monde le savait.
C'est
là.
Ça, ben on peut pas être surpris.
Depuis lundi que c'était déposé jeudi. Là. Puis là, lui, il parlait comme s'il fallait que le bureau du premier ministre là, fasse un doodle puis qu'il envoie ça aux autres partis. Pour
c'est ça, tu sais, non. Son tout premier rôle en tant que député, c'est d'être là pour voter quand il y a des votes à avoir. Je veux dire, encore une fois, il a le loisir de décider qu'il a d'autres façons de remplir ses fonctions et bien à lui, c'est parfaitement légitime. Mais c'est pas comme si on le devait consulter avec son horaire puis son agenda quand le gouvernement va déposer des projets de loi.
Moi, j'ai l'impression que cette sortie-là, c'était un peu stratégique. Pas en vue nécessairement de l'élection générale qui s'en vient, mais en vue de la partielle. De dire, on m'a pas annoncé pour le projet, mais je m'en vais au Saguenay, ou qu'il va avoir une partielle prochainement, de dire, j'ai un engagement au Saguenay, puis vous savez quoi, des Saguenayens? Vous êtes trop importants pour que je reste à l'Assemblée nationale. J'ai pris un engagement avec vous autres, je viens quand même vous voir, et ce, même si le premier ministre dépose un projet de loi dans mon dos en ailleurs présentement à l'Assemblée nationale. J'ai comme l'impression que c'était peut-être un peu plus ça du côté de la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Rapidement, vous en pensez quoi, les gars?
Ouais, je suis d'accord. Puis encore une fois, comme je disais, c'est parfaitement légitime pour lui de décider que son mandat de représentation l'appelle au Saguenay plutôt qu'à l'Assemblée nationale. Parfait. Mais c'est la deuxième partie du message où il insinuait qu'il avait le droit d'être consulté dans l'horaire, que là, je décroche un peu.
Lambert, mot de conclusion?
Ben, tu sais...
Ouais, on envoie un doodle?
Non, Mathias a raison. Ouais. Non, mais tu sais, il était là, il disait pour une conférence dans une école, j'en conviens, mais ils sont surtout là pour faire du démarchage. Ils n'ont pas encore de candidat dans Chicoutimi. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des rencontres avec... de possibles candidats, trouver la meilleure candidature parce que c'est pratiquement déjà gagné d'avance pour eux là-bas. Et donc, qui va être la meilleure personne pour être leur septième, possiblement, député? Rappelons-nous qu'ils avaient commencé l'élection avec trois députés. Donc, on va être à plus que le double que ce qu'ils avaient remporté en 2022.
Alors, clairement, le PQ a le vent dans les voiles, mais ça va prendre des meilleures semaines de Paul Saint-Pierre Plamondon. Messieurs, je pense qu'on va refaire ça le vendredi. Hein? C'était le fun?
Ben, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Là.
Vous avez aimé ça? Moi, j'ai les deux meilleurs vulgarisateurs politiques avec moi le vendredi, fait que je dirais pas non. Lambert Drainville, merci beaucoup. On t'envoie la vidéo pour que tu fasses suivre ça sur tes médias sociaux. Farnell, on fait la même chose.
Merci.
Fait que c'est le fun. On fait rayonner Boulevard un peu partout grâce à vous. On vous adore. Et avant de passer à la pause et à une entrevue avec Serge Bonin, chef de Repensons Lévis, candidat à la mairie de Lévis. On va aller faire un petit tour à Lévis pour venir à Québec à une heure avec Stéphane Lachance et cette possibilité de fusion avec Leadership Québec. Mathias, il y a de la circulation.
Oui, présentement, Henri IV direction sud pour l'entrée sur le pont Pierre-Laporte. Ça remonte jusqu'à 4 Bourgeois de ralentissement présentement, puis ça va s'empirer de minute en minute. C'est le trafic du vendredi qui commence plus tôt. Présentement, sur Charest, ralentissement entre Henri IV en direction est et Robert Bourassa. Le gros ralentissement qui a présentement lieu, c'est sur Capitale direction est. On parle à partir d'Henri IV, puis ça remonte présentement jusqu'à Pierre-Bertrand. Gros ralentissement présentement, puis ça crée un ralentissement sur Robert Bourassa en direction nord également, là, lorsque vous voulez prendre Henri IV. Lorsque vous voulez prendre Capitale, excusez-moi. Capitale direction ouest vers à hauteur de Laurentienne, ralentissement également. Et la 20, direction ouest, entre Président Kennedy et Taniata, gros ralentissement. Si vous avez des informations, 88-971-1021.
Avec mes calculs scientifiques, vous êtes 85% des électeurs de Respect citoyen et Leadership Québec à dire « Peu importe que ça soit Stéphane Lachance ou Sam Hamad, je veux mettre dehors Bruno Marchand. » Vous êtes 15% qui disent « Non, 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 ça marchera pas de même. Moi, je veux voter pour Sam ou moi, je veux voter pour Stéphane Lachance. » Et là, je pars un autre sondage, 418-971-1021. Voulez-vous ça des duos Farnell Morissette, Lambert Drainville?
Moi, je peux-tu voter oui?
Ben oui, tu peux voter oui. Lambert, tu vas voter oui aussi? Puis moi aussi, oui. Je vote oui. Bon, moi aussi, je vote oui. Mais c'est les auditeurs qui décident ici à Boulevard. 418-971-1021, voulez-vous d'autres micros, débats avec nos deux vulgarisateurs
On fait plus
préférés.
De consultations publiques ici qu'à CAQ.
J'adore. Je termine là-dessus. Serge Bonin, candidat à la mairie de Lévis, chef de Repensons. Lévis, je suis à l'instant après cette courte pause. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça parle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez...
Émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Chaque midi de midi à 14h, c'est unanime à 100%, Mathias. On refait Farnell Morissette, Lambert Drainville les vendredis. On parle même de débats respectueux qu'on n'entend pas dans les autres stations de radio, les autres médias. Donc, hein? On va y aller avec ça. Parlant de débat, n'oubliez pas, 21 octobre, mardi 21 octobre, midi, Serge Bonin, chef de Repensons Lévis, qui est avec nous en studio. On va lui passer la parole très bientôt. Isabelle Demers, chef de Lévis Force 10, et Stephen Blaney, chef de Prospérité Lévis. Trois personnes qui se présentent à la mairie de Lévis. C'est le débat sur nos ondes à Boulevard 102.1. Avant de passer à M. Bonin, Mathias, fais-nous quelques rappels parce que, oh, que c'est lourd dans la circulation.
Ah oui, ben ça commence vendredi, c'est toujours un bordel. Capitale direction Est, ça part de Robert Bourassa, ça va jusqu'à Henri IV. Gros ralentissement à prévoir. Direction ouest, c'est entre Laurentienne et Henri Bourassa. Si on se transporte sur la rive sud, la 20 en direction ouest, c'est entre Chemin des Îles et Président Kennedy, que c'est très difficile présentement. Pour traverser sur la rive...
Serge Bonin nous regarde en me disant « Ben ouais, c'est normal! Hein? » Excusez-moi, je vais ouvrir votre micro.
Non, devient classique, ça devient classique.
Avec l'autoroute qui n'est pas élargie, c'est un classique. Là.
Excuse-moi, je ne veux pas
couper. Vous faites bien, il n'y a pas de problème.
Si vous voulez traverser sur la rive sud présentement, Henri IV, en direction du pont Pierre-Laporte, c'est jusqu'à Chemin Sainte-Foy présentement, ralentissement. Également, Charest, direction est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa qui a un bon ralentissement. Et je termine avec Robert Bourassa en direction nord lorsque vous arrivez pour prendre Capitale, ralentissement après qui remonte présentement jusqu'à Wilfrid Hamel. Si vous avez des informations, 88-971-1021.
Vous le savez, à Boulevard 102, on aime faire de la place à tous les candidats qui se présentent à nos mairies de Québec et à nos mairies de Lévis. Dans notre émission Marceau le matin, on a reçu Stephen Blaney, Isabelle Demers, et là, c'était le temps de recevoir le chef de Repensons Lévis, Serge Bonin. Monsieur Bonin, comment allez-vous?
Ça va super bien. Merci de nous recevoir.
Vous avez tellement l'air en forme, puis il faut que je vous félicite pour quelque chose. Votre idée à chaque jour à 10h30, le Zoom, une annonce.
Pas pire,
parce que j'ai l'impression de connaître votre programme, puis je pense que c'est tout à votre avantage.
C'est même pas fini. On a même pas tout dévoilé.
C'est pas encore tout dévoilé.
On a 5 sections sur 7 qui sont sur le site web.
Il y a donc bien des choses à changer à Lévis.
Ben écoute, on réfléchit à ça depuis tellement longtemps. On est allé dans toutes les villes voir un peu ce qui se faisait. On est allé à l'international. On a ramené ça à notre congrès. Les gens de Lévis sont venus. Ils ont mis ça en ordre. On s'est prononcé. On a échangé. Notre équipe est tellement diversifiée qu'on a des points de vue différents. On a challengé à peu près tout. C'est vraiment super intéressant ce qu'on a à proposer. Puis c'est toujours le deuil que je fais un peu. Là. J'ai une Bible avec moi, puis je me dis, je pourrais pas parler de tout, malheureusement. Mais j'espère piquer assez la curiosité pour que les gens aillent sur le site web pour au moins voir de quel bois on se chauffe.
On assiste à une vraie belle course à la mairie à Lévis. Ça faisait longtemps. Ça a été un règne de Gilles Laulier. Je trouve que ça fait vraiment du bien pour l'exercice démocratique.
Absolument, absolument. Oui, c'est un véritable débat à travers ça. Trois personnalités différentes. Il y a quelqu'un qui sort de l'administration actuelle avec les écueils qu'on a connus, avec le moratoire, avec la hausse des taxes, la hausse de la dette. Donc, il y a plusieurs choses qu'on a connues dans les dernières années qui, pour moi, c'est un peu un constat d'échec sur l'administration actuelle. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur puis qui essaie d'apporter des idées, mais qui, de ce que je constate, ne maîtrise pas toujours les tenants et aboutissants de ce qu'est la ville, c'est quoi ses champs de compétences, c'est quoi la réalité. Je posais juste une question sur la gestion des matières résiduelles et il pensait qu'on envoyait nos déchets à Saint-Lambert au site d'enfouissement alors qu'on a un incinérateur à Lévis. Ouais. Tu sais, il y a des éléments qui sont perdus un peu de ce côté-là, mais il y a une vraie course pour vrai, là. Ça c'est clair.
Oui, exactement. Vous vous démarquez au niveau du transport en commun. Vous avez ramené ce matin dans l'actualité le projet du SRB. Les auditeurs de Boulevard 101 qui m'écoutent depuis 3 ans savent que ce projet-là, je l'adore. Oui. Je trouve que c'est une excellente solution pour augmenter la part modale du transport en commun, autant à Lévis qu'à Québec. Pourquoi le ramener dans l'actualité?
Bien, la vision 2040 de la ville de Lévis dit on veut gagner en part modale, on veut améliorer le transport en commun pour permettre de... Tu sais, dans tous les sondages, là, le trafic, puis on en parlait juste à l'instant, le trafic sur la 20 à Lévis, on veut régler ça. Mais c'est pas vrai que juste en élargissant l'autoroute 20, on va régler le problème. Oui, ça fait partie des solutions. Oui, il faut rajouter des ronds-points, des carrefours giratoires. Il faut faire des feux mieux synchronisés à travers ça. Il faut faire des virages à droite quand on peut. Il y a toutes sortes de solutions qu'on peut mettre en place. Mais tant qu'on n'aura pas une colonne vertébrale de transport en commun structurant sur l'axe Guillaume-Couture du Cégep jusqu'à Saint-Rédempteur, on ne sera pas capable de rabattre des bus plus efficacement et de libérer de l'espace pour faire en sorte que ceux et celles qui peuvent prendre l'autobus le prennent davantage. Ouais. Parce que pas tout le monde qui va le prendre.
Sentez-vous qu'il y a enfin une ouverture à Lévis de ce discours-là? Parce qu'on a toujours entendu « Lévis, moi, je veux me promener avec mon char. » Y a-t-il une ouverture pour le transport en commun?
Ben, les villes ici ont été construites pour l'auto. Là. C'est normal, c'est une habitude. C'est plus simple. On peut aller où est-ce qu'on veut, quand on veut. Mais c'est sûr que tant qu'on n'améliore pas le transport en commun pour faire en sorte qu'on puisse se déplacer au maximum à l'endroit où on veut, dans le temps où on veut, mais on ne pourra pas régler ce problème-là, on ne pourra pas renverser cette tendance-là. Mais il y a toujours des gens qui vont prendre leur auto, puis ça, il n'y a aucun problème avec ça. Là. Ça n'a jamais été une guerre contre la personne qui possède son auto, qui doit aller porter ses enfants à la garderie, qui a besoin de ses outils pour aller travailler parce qu'il est sur la construction. Tout ça, ça existe, puis ça va exister, aucun problème avec ça. Mais si on n'enlève pas quelques voitures de ceux et celles qui peuvent le prendre, parce que ça devient efficace, parce que ça devient intéressant, bien, on va rester dans le trafic tout le temps. Là. L'entonnoir des ponts reste un entonnoir. Éventuellement, un autre lien, mais là, on est dans d'autres perspectives. Mais moi, je pense que cette mesure-là, elle est incontournable. En fait, je suis convaincu parce que l'étude le disait que c'était le seul moyen de faire un gain. Et là, bien évidemment, ce matin...
Oui, parce que là, vous avez sorti un petit os là, de votre manche.
Un
là.
Os.
Vous avez un os en disant « Hey, les amis, le SRB serait payé à 95% par les paliers de gouvernement. »
Mais en fait, c'est ça. Ça a été publié il y a très peu sur le site du gouvernement. C'est que nous, on le sait depuis le début, là, les voies réservées, 149 millions, ça a coûté en majeure partie pour faire des tuyaux dans le sol.
Oui.
Donc, on creuse, on fait les tuyaux, on refait les bassins de rétention. Il y avait 5 millions là-dessus qui étaient sur les feux de préemption. Donc, quand le bus arrive proche du feu, il va changer vert plus rapidement. Puis quand il est rouge, il va y rester moins longtemps si le bus attend. Donc, ça, ce 5 millions-là, pour moi, est très bien investi. Le reste, sur les abris-bus, sur la voie réservée dessinée, il n'y a pas un très gros investissement pour le transport en commun. Il n'y avait pas de gain de part modale. Là. C'était un maintien de la part modale. Oui,
puis on ne gagne pas tant de vitesse commerciale avec ça non plus. Là, puis là, pour nos auditeurs, la vitesse commerciale, c'est la vitesse que l'autobus roule en moyenne. Donc, évidemment, quand on va avec des projets structurants comme ça, ce qu'on souhaite, c'est augmenter de 5, 6, 7, 8 km/h en moyenne pour que le temps soit raccourci.
Puis ça, on le savait, là. On le savait depuis longtemps que la subvention pour améliorer le transport en commun n'améliorait pas le transport en commun, réparait des infrastructures souterraines. On l'a critiqué dès que Mme Guilbeault est venue à Lévis en disant « Ben non, là, c'est pas un projet qui est structurant pour le transport en commun. » Et là, ben, on apprend que le gouvernement va financer à seulement 25 % les voies réservées. Donc,
Monsieur... 75 % à la charge de la ville?
75 % à la charge de la ville. Là, M. Blainé parlait d'à peu près 50 millions de kilomètres. Donc, la ville débourserait de sa poche 37,5 millions pour une voie réservée un seul kilomètre. Tandis que pour le SRB, le gouvernement va rembourser entre 75 et 95 % de la facture. Donc, ça coûterait moins cher à la ville de faire un SRB qui est plus efficace que la voie réservée qui est moins efficace.
OK. Fait que là, on parle de quelque chose de très intéressant. Puis la SRB, j'ai bien compris, vous feriez passer centrale. Là. Puis là, je vais prendre l'exemple de Guillaume Couture. Ce serait centrale sur Guillaume Couture. Donc, comme ça, il y aurait des feux prioritaires qui pourraient justement augmenter sa vitesse commerciale.
C'est ce qui était dessiné, en fait, en 2013, qui est devenu SRB en 2017. Mm-hmm. Là, ça s'appelait Linéa avant. C'est ce qui était dessiné parce qu'il n'y a pas de conflit avec les voitures. Tu sais, les entrées, les sorties des commerces, justement, des habitations,
une voiture,
tout ça.
Que je veux tourner à droite.
Ben, c'est ça. Quand tu es en voie centrale dédiée, il n'y a personne qui te fait un conflit. C'est juste les feux de circulation, évidemment, qui sont là. Donc, ton adhérence à l'horaire, ta fréquence, tout ça est respecté. Okay. Puis on va jusqu'au bout. C'est ce qui est efficace. On ne veut pas gagner en vitesse. Là. En ce moment, là, du cégep au pont, c'est 22 minutes.
Fait que quand, ça va bien.
Quand tu embarques, tu débarques du monde, ben, c'est normal que ça prenne à peu près ça. Par contre, en heure de pointe, on tombe de 32 à 34 minutes.
Là, c'est plus long.
Et là, on peut gagner du temps. Cette vitesse-là, elle est correcte pour moi. C'est juste qu'il faut arriver à une fréquence qui est régulière, qui est, qu'on peut prendre à tout temps, les transferts quand on arrive de Bréquéville, de Saint-Jean, de Pintaine, de Saint-Étienne, de Saint-Nicolas. Mais peu importe d'où est-ce que tu arrives, tu es capable d'aller sur cette ligne-là et tu as un transfert rapide qui t'amène est-ouest, où est-ce que tu veux. Puis là, évidemment, on est en train de faire des travaux sur le pont qui vont aider nos bus à Lévis. C'est le pont de Québec, là, le fameux tunnel de l'autre côté. C'est nos bus à Lévis pour éviter le trafic, pour rentrer facilement à un éventuel terminus ici à
Donc,
Québec.
Donc là, avec un SRB, on s'entend. Parce que vois-tu, on a un auditeur qui nous écrit, voyez-vous, 1h20 pour me rendre Sainte-Foy à Saint-Étienne. Fait que justement, trouve ça long. C'est ce que voulait améliorer
je
avec
le SRB.
Je
connais très bien ce trajet, oui.
On change de sujet parce qu'on a un texto de David de Charny, super intéressant. Moi, en tant que Lévisien, c'est les égouts qui m'intéressent plus parce que j'ai subi une inondation qui est venue d'en bas. Donc, des égouts insuffisantes. Vous proposez quoi pour les infrastructures?
Bien, infrastructure numéro un de nos priorités. Bien, baisser la dette. Ouais. Ça, c'est la première des choses. Hein. 143% ratio dette sur revenu à Lévis. C'est la deuxième plus grosse dette des grandes villes au Québec. Donc, moi, c'est insoutenable. On baisse la dette d'abord. On s'occupe de nos infrastructures. On sait qu'il y a eu... Non seulement, là, on parle des tuyaux, on parle des usines, mais on va parler de nos bâtiments aussi. Là. On a à peu près 250 bâtiments à la ville. Il y en a qui ont été négligés. On le sait, moi, mon service d'entraide a fermé du jour au lendemain sans prévenir.
Ah, moi, je savais pas
ma
ça.
Maison des jeunes sont obligés de refaire les solives de rive.
Ça,
oups, il y a de l'amiante.
Parce que c'est
tout
la
ça.
Clientèle vulnérable.
Totalement. Fait que, tu sais, il y a des bâtiments dont on apprend l'état. Moi, je l'ai appris même sur les réseaux sociaux. Là. La ville ne m'avait même pas averti. Là, il y a eu une infestation de punaises de lit, puis ils se sont rendus compte, hop, l'air est insalubre. Bref, il y a vraiment de l'amour à donner à ce qu'on possède. On a coupé beaucoup de rubans, on a fait beaucoup d'investissements, mais il faut commencer par s'occuper de ce qu'on possède. Ça, c'est le minimum attendu d'une saine gestion. Donc, réduction de la dette, plafonnement des taxes à l'IPC. Les trois parties l'ont proposé, mais je suis le seul qui propose des mesures concrètes pour y arriver. Et la première mesure concrète, c'est de dire, là, il y a eu 22 % d'augmentation de la masse salariale en 2 ans. 22%
oui, j'ai vu ça hier parce
en
que
2 ans, c'est immense.
Hier, le soleil titrait le nombre d'employés qui avait augmenté au niveau de la ville de Québec, mais quand on regardait au niveau du pourcentage, la ville de Québec se maintenait à un niveau de 35,8% dans
masse
le budget
sur
de
le
masse
budget.
Salariale. Mais la ville de Lévis est à 44%.
Exact. C'est ça. Fait que, mais 22% en 2 ans, là, on n'a jamais vu ça.
Non.
C'est un rythme. Je comprends que la ville a grandi, je comprends qu'il y a des besoins, mais ce rythme-là, on n'est pas capable de le tenir. Donc, évidemment, pour les policiers et les pompiers, il y a des conventions collectives, il y a des attentes. On ne néglige pas la sécurité d'aucune façon. Oui, on va de l'avant. Mais pour tout le reste, il faut prendre le temps de se questionner. On a adopté un plan quinquennal des effectifs là, qui nous dit on va embaucher tant de personnes en tant d'années. Mais les directions rencontrent juste le comité des finances où il y a 4 élus qui siègent puis qui disent « Ah ben oui, ça c'est plus important que ça ». Nous, on veut que les directions viennent rencontrer l'ensemble du conseil de ville, qu'on fasse le portrait, le topo, gel d'embauche 1 an, on regarde qu'est-ce qui est là. Bon, là, on s'assure, parce que là, on vient de signer les conventions collectives d'à peu près tout le monde. Fait que là, c'est du 4-4-4-3-3 en pourcentage. Il faut trouver des façons d'y arriver. Donc, nous, il y a ça, puis il y a la diversification des revenus de l'autre côté. Aller chercher de la philanthropie dans des projets, aller chercher des partenariats. Il faut travailler différemment les projets qu'on met de l'avant. Et ça, on ne pourra pas arriver autrement. Donc, on est les seuls en ce moment qui disons « oui ». On est d'accord avec un plafonnement des taxes, mais voici comment on va y arriver. Tandis que, bon, du côté de Mme Demers, Elle a beau le dire, mais évidemment, le passé fait état de...
Ouais, c'est ça, vous dites, je suis le seul qui a un plan concret là-dedans. Côté philanthropie, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires que vous rencontrez à Lévis qui sont intéressés à ça? Puis là, je donne toujours l'exemple à Québec. Extraordinaire, la famille Choquette vient d'aller chercher 4 millions pour combattre l'itinérance. Mm-hmm. Sentez-vous qu'il y a des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires à Lévis?
Plus que 5000 entreprises à Lévis, puis les gens sont intéressés. On parlait de l'amphithéâtre. Il y avait une salle de peut-être 150 personnes qui sont venues, qui ont payé un billet à 500$ pour juste encourager la cause puis venir voir qu'est-ce qui se passe là puis est-ce qu'on peut mettre la main à la pâte. Mm-hmm. Donc, juste par curiosité, pour lancer le projet, c'était une conférence de M. Tanguay qui était là. Ouais. Et puis, les gens se déplacent, ont envie du sport, mais je suis sûr qu'ils vont avoir envie de la culture, de la protection du patrimoine. C'est tous des éléments sur lesquels la Ville peut émettre des reçus de charité et ne s'en sert pas. Donc, nous, on veut mettre en place une personne qui est dédiée à ça, qui va aller chercher des subventions, qui va aller chercher de la philanthropie, qui va créer des partenariats, puis qui va faire en sorte qu'on va être efficace dans la diversification de nos revenus parce qu'on a 85 % des revenus à Lévis qui sont dépendants de la taxation. Ouais. En ce moment, tout ce qu'on peut faire, là, c'est augmenter les taxes quand on a besoin d'argent. Mais ça ne fonctionne pas. On ne peut pas se baser là-dessus. Hein. La moyenne des villes est à peu près à 65 %.
Donc, okay. C'est vraiment plus élevé du côté de Lévis.
Exact.
Je termine avec deux sujets. Troisième lien. Bon, les trois, vous êtes d'accord, c'est pas le bon tracé. Avez-vous le même projet, les trois, ou il y a une différence?
Ben, moi, je suis convaincu qu'il faut le faire dans l'Est, dans le périphérique, là, pour terminer la boucle, tu sais. Puis ça, je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus. Là. Je sais qu'on aurait mis en doute un peu ma parole, mes convictions, mais moi, j'ai toujours été dans ce sens-là. Pas parce que j'ai eu d'autres, d'autres engagements politiques.
Vous avez toujours parlé de votre père, là, 50
ouais,
ans, Expo Québec,
vrai.
Le
ben
tunnel.
Oui,
j'ai de la mémoire. Moi, je m'en rappelle.
Ah, c'est
vous
bon,
me dites.
C'est bon. Ben oui, le tunnel à la pointe de l'île, là. Le tunnel, moi, j'y crois pas beaucoup. Là.
Non, non, c'est ça. Exactement.
Un pont, mais un pont peut être beau. Là. Ouais. Un pont peut être un concours architectural, peut faire quelque chose de magnifique. On dit toujours, on va briser le paysage. On est capable de faire quelque chose qui se tient à travers ça.
Excellent.
On est en train de mettre un pont à 2,7 milliards pour 7000 personnes sur l'île d'Orléans. Je comprends qu'il était essentiel, là, mais on leur donne 2,7 milliards. Je pense qu'en compensation, de l'autre côté, on est capable de traverser puis de nous donner une voie d'accès.
Ben oui,
là.
Ben oui, vous avez tellement raison. J'avais pas vu ça comme ça, vous avez raison. Dernier sujet, logement social et abordable.
Oui.
Qu'est-ce qu'on propose du côté de Repensons Lévis? On sait, t'en prennes crise du logement, mais en pleine crise de moratoire également au niveau de la ville de Lévis.
Il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre en place. La première chose, c'est regarder si on ne peut pas avoir des terrains. Acheter des terrains par droit de préemption. Là, la ville a le droit du premier refus sur des terrains. Ensuite, on les réserve à des coopératives ou des OBNL qui font en sorte que le prix est toujours en bas du marché. Il y a le GRT, le groupe ressources techniques à Lévis, qui travaille sur ce genre de projet-là, qui est un partenaire exclusif, évidemment. Pas exclusif, mais en tout cas, c'est un partenaire de choix, de premier choix pour développer ce genre de projet-là, puis voir comment on peut faire. Toutes sortes d'initiatives qui ont été faites un peu partout. Donc, il faut regarder ce qui se fait. Autre chose, c'est quand un promoteur veut, par exemple, avoir une permission urbanistique particulière, on pourrait dire, ben, si tu rajoutes un étage au zonage, mettons que ton zonage est à 8 étages, on dit, OK, on te permet d'en faire un 9e, en échange, tu nous donnes un pourcentage X de logements abordables.
Ça se fait à Québec, ça.
C'est le genre de négociation qu'il faut faire absolument.
Le projet d'îlot Dorchester à Québec, 17 étages, projet des Trudel, 15 % de logements sociaux
ben voilà.
À l'intérieur.
Fait que c'est
donc,
exactement
ça se fait,
le genre,
ce type de négociation.
Le genre de permission qu'il faut mettre en place à Lévis pour avoir cette diversité d'offres-là, puis permettre, évidemment, parce que là, on est en train de subventionner à Saint-Jean-Chrysostome un projet 12 millions pour la ville, 37 millions pour le gouvernement, donc on est à peu près la moitié du projet. Donc, autour de 50 millions sur 110, là, mettons, pour 300 logements, le 3,5, il sort à 956$.
T'sais. Ah non, c'est ça.
C'est pas super abordable pour tout le monde quand
le gouvernement a mis
48 millions sur le projet. Là, y a
non, il faut que ça soit plus abordable, en effet.
Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Fait que,
vous avez raison.
Il y a des façons de faire, il faut juste les mettre en place puis écouter les experts du milieu qui sont capables de le faire.
Vous avez un super bon commentaire, vous avez des bons commentaires d'auditeurs, mais dont Christian qui dit « Crème, il est bon, M. Bonin. » Alors, ben, ça tombe bien, Christian, tu vas pouvoir te faire une tête encore plus, parce que le 21 octobre, je le rappelle, midi, ici même sur les ondes de Boulevard 101, dans l'émission On en jase, ça sera le débat des trois candidats à la mairie de Lévis, Serge Bonin de Repensons Lévis, Steven Blainey de Prospérité Lévis et Isabelle Demers de Lévis Force 10. Mathias, on est avec M. Bonin, puis je pense qu'il y a un accident à Lévis.
Oui, accident.
C'est pas moi qui l'ai causé.
on imagine. 20 direction ouest à hauteur de Président Kennedy présentement. Une voie sur deux de fermée. Ralentissement déjà sur la 20 direction ouest. On parle à partir de Président Kennedy jusqu'à Taniata. Donc, je peux déjà vous dire que ça va probablement remonter jusqu'à Monseigneur Bourget jusqu'à dans les prochaines minutes. Je vous transporte maintenant sur la rive nord. Si vous voulez traverser sur la rive sud en direction du pont de Québec, déjà un gros, gros ralentissement là, pour cette heure-là, un vendredi, c'est gros. Pour l'accès au pont Pierre-Laporte, on remonte jusqu'à rue Einstein présentement, là, Henri IV, direction sud. Charest, direction est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa. Ralentissement à prévoir. Wilfrid Hamel à l'intersection de Robert Bourassa. Ralentissement dans les deux côtés. Capitale, direction est. Énorme ralentissement entre Henri IV et Robert Bourassa à prévoir. Capitale, direction ouest, c'est entre Henri Bourassa et leur ancien ralentissement. Robert Bourassa, direction nord, en rentrant sur Capitale, attendez-vous à un ralentissement jusqu'à environ Wilfrid Hamel. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Merci beaucoup, Mathias. Monsieur Bonneuil, merci beaucoup. On vous souhaite bonne continuité de campagne. On se voit le 21 octobre.
Toujours un plaisir de venir en banlieue de Lévis.
Là, il y a des gens de Québec qui sont pas contents.
On se taquine, on se taquine.
Ben oui, faites bien. Faites bien, on va falloir s'attaquer à Lévis. On s'attaque toujours à Montréal, nous autres à Québec. Merci d'être passé en l'autre. C'est super
deux.
Apprécié. On fait une courte pause et par la suite, on revient avec bloc de nouvelles de Mathias Turcotte et Stéphane Lachance est en route vers nos studios. On va parler de cette possible fusion entre Respect citoyen et Leadership Québec dans la course à la mairie de Québec. Restez avec nous. Vous êtes à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1.
On en jase. On en jase. À Boulevard 102.1.
Mais j'avoue que mettre des gants blancs pour ce genre d'exercice, c'est une idée qui ne me viendrait pas.
Jusqu'à 14h. On en jase.
On mettra jamais de gants blancs, on en jase. Mais on est très, 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 très sympathique. On a Stéphane Lachance qui rentre immédiatement en studio. C'est sûrement le nom qu'on a le plus entendu depuis ce matin à la une du soleil, Stéphane Lachance, qui dit « Hey, gadons ça, toi, je pourrais me fusionner avec Leadership Québec, c'est complètement fou. » Mais avant de parler avec Stéphane Lachance, Mathias, fais-nous un résumé de l'actualité. Qu'est-ce qu'il faut savoir à part cette fameuse fusion qui est dans l'air?
Faut savoir beaucoup de choses, fait que ça va rouler. Je commence avec un homme de 43 ans qui a été arrêté lundi pour tentative de meurtre sur sa conjointe dans le secteur de Limoilou. Il avait tout d'abord été arrêté pour voie de fait en contexte conjugal et finalement l'arrestation s'est également rajoutée. Tentative de meurtre sur sa conjointe. Mark Carney qui a annoncé certaines mesures sociales qui feront partie de son budget qu'il déposera le 4 novembre prochain. On parle notamment des Canadiens à faible revenu qui recevront maintenant automatiquement les prestations fédérales. Prestations fédérales auxquelles ils ont droit. C'est juste qu'avant ils devaient faire la demande, mais à partir de l'année d'imposition 2026, ce sera versé directement dans leur compte. Également, le programme national d'alimentation scolaire que Justin Trudeau avait mis en place sera désormais permanent, lui qui devait prendre fin après 3 ans. Petite mise à jour, là, le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes a annoncé hier soir qu'il passera à partir de samedi matin à 6h à une grève tournante. Ça veut dire que ça va être des arrêts de travail localisés un peu partout à travers le pays puis qui pourront changer d'un endroit à l'autre. D'ailleurs, une rencontre entre le syndicat et le ministre Lightband est prévue la semaine prochaine. Une enquête publique sur les collisions mortelles impliquant des poids lourds. On voit des accidents des poids lourds se multiplier, des demandes différents camionneurs pour avoir plus de sécurité sur les routes s'accentuer. Eh bien, celle-ci portera principalement sur les décès de Tania et Elliot Lalonde survenus le 27 août dernier sur l'autoroute 30. Et c'est le coroner en chef du Québec qui l'a ordonné. Liquidation extrême, cette fameuse saga-là qui avait tant fait parler cet été. On parle de Éric Barrette, le propriétaire qui avait demandé des versements d'avance pour certains produits de plusieurs centaines de milliers de dollars sans finalement jamais livrer de produits. Eh bien, ce matin, on apprenait que cette même homme-là, cette même organisation a présentement 250 000 $ de loyers impayés. Donc, l'entreprise de gestion immobilière de centre médical Mayou a présentement intenté des procédures légales justement à l'endroit de liquidation extrême. Ça va être à suivre dans les prochaines semaines. Également, gros reportage de JE à propos de la base militaire de Valcartier sur le fait que c'est relativement facile en réalité de sortir des armes de grade militaire un peu partout. C'est très inquiétant. On apprend également que différents motards criminalisés auraient été au sein des forces armées canadiennes. On parle notamment d'individus reliés aux Hells Angels, certains individus qui auraient sorti des armes justement pour des Hells Angels. On parle de grenades, par exemple, à partir des armes des forces armées canadiennes. Donc, un dossier très, très inquiétant dans le Journal de Québec ce matin. Je termine justement avec la grosse nouvelle dans la campagne municipale d'aujourd'hui et la raison pourquoi on a notre invité présentement oui. en onde. Stéphane Lachance qui a annoncé aujourd'hui qu'il prévoit proposer une collaboration au parti de sa maman Leadership Québec. Planifier une rencontre justement avec Leadership Québec pour déposer une offre qui, selon M. Lachance, conviendrait à tous les partis et ce, à la totalité des équipes des deux candidats. Donc, on parle de Leadership Québec et de Respect citoyen. À voir, ça va être quoi cette offre-là. Mais du côté de l'équipe Samamad, on dit que le canal de communication a toujours été ouvert pour discussion entre les deux partis.
Ben oui, je me lève ce matin. Moi, je me suis couché un peu plus tard parce que j'allais voir l'excellent humoriste François Bellefeuille hier à la salle Albert Rousseau. Puis là, je me suis dit, j'ai les yeux trop collés. Comment ça, Stéphane Lachance dit à la Une du Soleil, je vais aller parler avec Samamad pour moi, quand je parle à ces deux gars-là, en entrevue, Mathias, depuis plusieurs mois, il me disait toujours « Il n'y en aura pas de fusion. On est des partis politiques séparés. On fait chacun notre propre course. » Stéphane Lachance, bienvenue dans les studios de Boulevard 102.
Bonjour, bonjour.
Comment ça, ça commence à changer?
Mais là, je trouve que tu t'avances un petit peu trop. Là. Tu parles de fusion. Moi, j'ai jamais parlé de fusion. J'ai dit qu'on avait une offre à faire aux gens de Leadership Québec. Donc, une offre qui est respectueuse. Il faut être respectueux. Il faut tenir compte aussi de tout le monde, des hommes et des femmes là, qui sont en campagne depuis le mois de juillet. Donc, on va de l'avant avec une proposition. Il faut se souvenir que dans le passé, là, on avait essayé de faire des propositions avec M. Oui. Hamad avant qu'il officialise son entrée dans. Et ça, malheureusement, on n'avait pas réussi à s'entendre.
Qu'est-ce qu'il avait chopé à ce moment-là?
Écoute, ça serait honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse. Je peux pas te dire. On n'a pas eu de fin de non. On a eu une fin de non-recevoir, okay. Simplement. C'est ce qui est arrivé. Donc là, directeur de campagne, Marc Roussin, a demandé une rencontre avec les gens de l'organisation. Et puis, on va les rencontrer. On va leur faire notre offre. On pense que c'est une bonne offre. On pense que c'est une offre qui ferait en sorte que tout le monde y trouverait son compte, y compris, et bien évidemment, les citoyens de Québec pourraient y trouver leur compte aussi.
Je sais bien que vous ne me direz pas l'offre que vous allez leur faire sur les ondes de Boulevard 102 aujourd'hui. Je suis né de la dernière pluie. Est-ce que cette offre-là, par contre, va prendre soin de tous les candidats à l'heure actuelle qui ont leur figure sur un poteau?
On a essayé de trouver une solution qui fait en sorte que tout le monde y trouve son compte. Alors que personne, en tant que tel, on veut essayer que tout le monde y trouve son compte. Quand on négocie, vous le savez, c'est du donnant-donnant. Mm-hmm. Tu peux pas tout avoir, tu peux pas tirer la couverte toute de ton côté puis donner rien à l'autre. Alors, on essaie de trouver une solution en contexte. Faut pas se cacher que, par contre, les résultats du dernier sondage font en sorte que cette possibilité est là. Si mettons, M. Hamad aurait été à 2 points de M. Marchand, je pense pas qu'on aurait cette conversation.
Là, Hamad à 11 points. Vous, avec Respect citoyen, félicitations, faites une bonne campagne et ça paraît parce que remonté de 5 points. Mais là, ça vous place les deux ensemble, vous dépassez Marchand de 2 points, mais les deux séparés, vous êtes loin de Marchand.
Oui, mais écoute, là, il va y avoir un autre sondage qui va sortir la semaine prochaine. Nous, on a des sondages à l'interne aussi. On est en montée, là, présentement.
Okay.
On est en montée.
Bien, honnêtement, je le sens sur le terrain. Il n'y a pas de doute. On le sent quand on reçoit les textos. Là.
Alors, écoute, moi, je suis très, très. On a essayé de faire une proposition. On a eu de grandes discussions à l'interne. Il faut aussi faut tenir compte aussi que chez Respect citoyen, on a 1200 membres. Mm-hmm. Et moi, je ne peux pas du jour au lendemain de décider de façon unilatérale de faire quelque chose. Je dois avoir le consentement des membres.
Oui, qu'est-ce qu'en penseraient vos membres? Parce que tout à l'heure, j'ai posé la question justement, puis j'ai dit...
C'est la grande inquiétude, mais je la comprends. Ouais. Mais je veux rassurer les membres qui sont à l'écoute, là. Dans notre proposition, on a tenu compte en tant que tel de ce que les membres nous avaient déjà demandé dans le passé.
Parfait.
Donc, c'est l'offre qu'on fait, on devra la, si advenant le cas où elle sera acceptée, on devra la soumettre à nos membres, mais on n'a pas de doute que cette offre-là serait acceptée de la part de nos membres.
Puis là, qui est le chef?
Bien, on verra.
Okay.
On verra en tant
vous
que tel.
Vous seriez prêt à laisser votre place de candidat à la mairie?
J'ai pas dit ça. Ça va dépendre de la réception en tant que telle. Mais écoutez, on va voir.
Je vais vous poser la question autrement. Oui, c'est-tu plus important de combattre le tramway ou d'être candidat à la mairie?
Je pense que les deux sont très importants parce qu'il n'y a pas juste le tramway à Québec. Il y a les finances publiques, il y a le combat contre la dette, il y a le combat contre l'itinérance, la sécurité. Il y a beaucoup de choses à faire à l'hôtel de ville en tant que tel. Donc, je pense que les deux vont de pair. Mais c'est sûr aussi faut que les gens de Québec soient conscients que c'est leur dernière chance d'arrêter le projet. Parce que si Bruno Marchand revient pour un deuxième mandat, c'est sûr qu'actuellement, il n'y a aucune construction physique du tramway. On a fait des travaux préparatoires, des changements de conduite, c'est ça. Mais on n'a rien fait. Il n'y a pas de rail de poser. Mais je peux vous confirmer qu'à partir du 3 novembre, si Bruno prend revient pour un deuxième mandat, ouais. C'est sûr qu'il va y avoir des choses et là, ça sera terminé. Donc, les gens... Puis l'autre chose aussi, c'est que les gens, à un moment donné, doivent focaliser leur vote. Cette semaine, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que ma deuxième famille, le Parti conservateur du Québec, parce que j'étais candidat en 2022 pour le PCQ. Quand même, dans Val-de-Lage, j'ai eu 13 291 votes. J'ai fini deuxième. Ben là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens du PCQ qui m'ont écrit, puis qui nous font le commentaire qu'ils appuyaient, une partie, pas tous, mais une partie appuyait sa mamane. Et là, il y en a beaucoup qui tournent à 180 degrés et décident d'appuyer Respect citoyen. Parce que les gens aiment le discours qu'on a sur le terrain, aiment la clarté de nos propos. Mm-hmm. Je veux dire, les gens savent où on niche. C'est clair, pas de tramway pour le troisième lien à l'est, le périphérique, la diminution au niveau de la dette en tant que telle, le gel de taxes résidentielles pour 2 ans, le 10% pour le commercial, nos 50% de rabais sur la passe d'autobus. Les choses sont très claires avec Respect citoyen. Les gens savent où on niche. Puis on essaie d'être le plus clair. Puis c'est la réaction qu'on a de la part du terrain.
Oui, bien justement, les choses sont très claires. Avec Respect citoyen, on est anti-tramway, mais on est aussi anti-transport structurant en commun en général, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Sam Ahmad, qui propose un SRB. Qu'est-ce qu'on fait avec ce projet-là?
Bien, premièrement, on n'est pas anti-transport structurant. Ce qu'on dit aux gens, c'est que dans un premier temps, il faut optimiser le RTC. Il faut faire en sorte que ce service-là fonctionne, parce qu'actuellement, ce service-là, il est 9e sur 10 des sociétés de transport au Québec. Donc, on doit faire en sorte que ce service-là fonctionne, de faire en sorte que les chauffeurs, les employés d'entretien puis l'administration travaillent ensemble, puis ils sont dans le même bateau puis qui rament dans la même direction. Puis quand ça va être fait, on va consulter les gens puis on va leur demander vers où on s'en va au niveau du transport. Est-ce que ça sera souterrain? Est-ce que ça sera aérien? Ça sera certainement pas sur rail. Parce qu'un tramway à Québec, ça marche pas à Ottawa, ça marche pas à Montréal, ça marchera pas plus à Québec.
Fait qu'on ferme pas la porte à un SRB.
Non, éventuellement. Mais... Non, le SRB, ça peut être une possibilité, mais personnellement, en tout cas, c'est pas mon choix. Parce que, je veux dire, le SRB, oui, c'est vrai qu'au niveau, il y a pas de rail, il y a pas de fil, puis il y a beaucoup moins d'impact, mais c'est quand même 4,2 milliards là, en tant que tel, puis ça représente 500 millions de déboursés de la ville. Il y a moyen de faire autrement, puis faire quelque chose. Mais ça, moi, ce qui compte pour moi, là, c'est d'arrêter d'imposer des choses aux gens. C'est de leur offrir des choix, de faire venir les constructeurs, de faire des présentations, que les gens puissent y assister librement, puis après ça, de les consulter, de savoir c'est quoi le système que vous semblez être intéressé. Puis là, les gens, c'est leur argent. On peut-tu leur demander ce qu'ils veulent faire avec?
Alors, moi, je ne le cacherai pas au niveau de vos promesses budgétaires.
Oui.
Ça fait quelques fois que je vous pose la question pour la même poser via les auditeurs. Puis je reste sur ma faim. Comment vous allez faire pour aller chercher 150 millions?
Bien, c'est très simple. C'est très simple. Notre cadre budgétaire le prouve en tant que tel. Donc, c'est vraiment budgété. On va se priver d'environ 100 millions de dollars de revenus par le fait qu'on va couper la taxe sur les immatriculations, la taxe sur les chats, les foyers. On va revenir au niveau de tarification des vignettes.
La taxe sur les foyers, c'est que vous allez permettre aux foyers, il n'y a plus de réglementation.
Il n'y a plus de réglementation. Ce qu'on dénonce au niveau des foyers, c'est que tu peux faire une règle pour tout le monde. Je comprends qu'il y a une réalité dans le Vieux-Québec qui n'est pas celle des gens du Lac-Saint-Charles.
Mm-hmm.
Alors, il y a des gens là, que j'ai rencontrés justement dans la distribution des pancartes de terrain. Ils nous disent, écoute, moi, j'ai toujours chauffé, en plus de mon chauffage régulier, avec un poêle à bois au sous-sol, puis la personne vit en villégiature, je le comprends. Tu sais, les gens sur Grande Allée versus les gens de Lac-Saint-Charles, ils n'ont pas la même réalité. Donc, ce qu'on dit tout simplement, c'est qu'il y aura un ajustement à faire en fonction des secteurs. C'est ce qu'on veut dire à ce niveau-là.
Je reviens sur le cadre financier, c'est ça? Comment on fait pour aller rechercher
cet argent-là? Donc, on se prive de 100 millions de dollars. Par contre, on va compresser en tant que tel les dépenses? Parce qu'actuellement, Bruno Marchand est sur un indice de 2,5 % d'augmentation par année. Nous, on va rabattre ça à 1,25. Donc, on va compresser. Puis ça, c'est une autre différence aussi avec les gens, entre autres, de Leadership Québec. Monsieur Hamad a déjà dit qu'il y avait presque 200 postes de col blanc qu'il voulait abolir. Nous, il n'y a pas d'abolition de postes en tant que tel. On va réduire les enveloppes. On va faire plus avec moins. On va réduire les enveloppes. Les responsables de département vont se faire donner une enveloppe puis vont devoir gérer avec cette enveloppe-là. Est-ce que, par contre, dans un département, le dernier engagé fait en sorte qu'on n'arrive pas dans le budget? Bon, peut-être, mais il n'y aura pas de réduction en masse de personnel. Mais c'est vraiment une compression. Donc, on se prive de 100 millions. Mm-hmm. On compresse 150 millions. Et on trouve, autrement dit, 50 millions de... On se dégage un 50 millions. On l'applique sur la dette et l'économie d'intérêt qu'on va faire sur le paiement de la dette, c'est là où on va gagner puis qu'on va pouvoir en faire bénéficier les
citoyens. Est-ce qu'on va en perdre en termes d'équipement, par contre? Parce qu'il y a quand même une montée des prix de l'inflation là, sur l'équipement.
Non, c'est ajusté en tant que tel. Nous, on a tenu compte dans notre record budgétaire. On a travaillé avec les chiffres de la ville en tant que tel. Donc, il n'y aura pas de diminution de services en tant que tel. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont, pour moi, dans ce que j'ai vu, des choses qui sont complètement farfelues comme dépenses. On va pas commencer à... Tu sais, on va y avoir une compression. Si tu me le permets, je voudrais juste rajouter, parce que ce matin, dernièrement, là, il y a Mme Dussault de Val-Bélair, la conseillère,
Bianca Dussault,
qui a fait un commentaire en ce qui me concerne, parce que j'ai dit mardi que je trouvais à la sortie du débat que... Puis c'est un commentaire, c'est un compliment que j'ai voulu faire à M. Marchand en disant que lorsqu'il a sorti du débat, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient présentes et qui adhéraient en tant que telles à la vision de M. Marchand. Oui. Puis que j'ai parlé de magnétisme.
Allez-y, ben c'est justement la question que je voulais
vous
poser.
Parfait,
alors
j'ai dit ça. Ben, c'est ça. Alors, moi, c'est un compliment que je voulais dire, puis je voulais dire, parce qu'il faut tenir compte qu'en 2021, il y a 144 000 femmes qui n'ont pas voté. Mm-hmm. Alors, et là, il semblerait que mon commentaire ait été mal perçu, puis là, j'ai entendu même Mme Dussault dire que mes commentaires étaient dégradants. Hey, là, un instant, là, si j'ai pu froisser des gens par ce commentaire-là, je le dis publiquement, je m'en excuse, mais mon but, c'était tout simplement de... C'était un compliment de dire que je trouvais ça intéressant de voir qu'on avait été capable du côté de mon adversaire de mobiliser des femmes en fonction du message. Puis c'est ce qu'on veut faire, nous aussi. Ouais. On veut mobiliser ça. On va tenir d'ailleurs une activité le 23, Le 23 octobre, toutes nos candidates, nos 6 candidates de Respect citoyen vont tenir une activité qui n'est pas tellement loin d'ici. Et on va mobiliser les femmes pour les intéresser à la chose politique municipale.
Puis pourquoi Bruno Marchand réussit à plus attirer l'électorat féminin que Stéphane Lachance, selon
vous? Ben, je sais pas. Mais on va travailler là-dessus. Je pense qu'on est capable de bien faire. Mais chose certaine, puis ça, je veux le dire de façon très claire, le commentaire ce matin de Mme Dussault de dire que c'était dégradant. Ouais. Pour quelqu'un là qui, en 2021, arborait le chandail anti-tramway, puis qui a décidé de changer son chandail pour arborer celui de Bruno Marchand avec le tramway, je pense que Mme Dussault, elle n'a aucune leçon à me faire à ce niveau-là. Puis je la comprends, elle est dans Val-Bélair, puis elle est craintive de perdre son poste. Et malheureusement, elle va le perdre.
Qui est votre candidate dans Val-Bélair?
C'est Patrice Morneau, c'est bien ça? C'est Pascal Morneau, je m'excuse, Eva. Pascal, excuse-moi. Pascal Morneau, non, mais j'ai plusieurs noms à retenir. C'est mon colistier. Et puis, nous, en tant que tel, on est sur le terrain à Val-Bélair, puis ça va très, très bien. D'ailleurs, tu étais là, je pense, hier, en tant que tel. Hein?
Fait que là, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que vous avez pas dit que Bruno Marchand tirait les femmes parce qu'il est beau bonhomme.
Non, j'ai pas dit ça, puis j'ai pas dit ça non plus parce qu'il porte des espadrilles à ce niveau-là. Donc, non. Je pense qu'il y a un message pour Monsieur Marchand, comme n'importe quel autre chef de parti, a une idéologie, un message. Puis les gens sont tous libres d'y adhérer ou pas. Puis il semble avoir une bonne façon d'attirer une certaine clientèle. Puis tant mieux pour lui à ce niveau-là. Mais nous, on veut vraiment intéresser les femmes à s'intéresser à la politique municipale parce que la politique municipale...
Est-ce qu'elles s'intéressent assez, les femmes, à la politique municipale?
Pas assez, je pense. Pas assez parce que souvent...
Et pourquoi, selon vous?
Bien, en tant que tel, ce qu'ils nous disent, puis je prends les commentaires de mes deux candidats ce matin au point de presse, c'est qu'ils sont partagés dans leur carrière, plus en tant que tel la vie de famille. Tu sais, à un moment donné, ils font des choix, puis ils disent « Oh, la politique, c'est pas important. » Mais le problème, c'est que si tu laisses choisir d'autres personnes que toi, c'est des impacts directs, là. Les vidanges, les loisirs, c'est des impacts directs dans ta vie de tous les jours. Donc, c'est important. Ne laissez pas des gens choisir pour vous. C'est important, le 2 novembre prochain, que vous ayez voté puis que vous donniez votre opinion par rapport à ça.
Fait que là, la mère de famille là, qui est prise à la maison à faire les repas puis tout le kit, là, comment Stéphane Lachance va aller chercher?
Bien, écoute, on va essayer de lui démontrer premièrement qu'on veut lui remettre de l'argent dans ses poches, qu'on veut arrêter de la considérer comme un guichet automatique, puis qu'on va lui permettre aussi d'avoir des infrastructures sportives pour ses enfants qui sont de qualité. Parce que d'aller encourager ses enfants dans des infrastructures qui sont complètement inadéquates, mm-hmm. c'est pas le fun non plus. Puis il y a des mamans là, qui ont une carrière, qui doivent s'occuper de la famille, qui ont deux enfants qui jouent, exemple, à des sports dans deux endroits différents. Ouais. C'est pas toujours évident là, de tout concilier ça dans un agenda.
Ouais, ouais, vous parlez de mon ex avec du football pour les deux, puis du hockey pour exactement. Les deux, alors, qui est enseignante.
On veut en tant que tel leur démontrer mm-hmm. que malgré tout ça, c'est important de s'intéresser à la politique yes. municipale, puis nos six candidates vont le faire le 23 octobre prochain.
Mais vous comprenez que l'utilisation du terme « magnétisme » chez certaines personnes, c'est normal quand même qu'ils interprètent ça comme « les femmes votent pour Marchand parce qu'il est beau ». Ça sonne un peu de même.
Moi, j'ai pas parlé de sa beauté. Là.
Mais ça sonne magnétisme.
J'ai parlé plus
de
son discours, de ses idées. C'est plus dans ce sens-là. J'ai pas parlé de sa beauté à ce niveau-là. Puis c'est assez clair. D'ailleurs, le débat de mardi de la Chambre de commerce, je veux dire, il y avait une bonne partie de la salle qui était du côté de M. Marchand. De toute façon, t'étais là, t'étais présent.
Oui, j'étais présent.
Puis il y avait beaucoup de personnes de sexe féminin, puis avec des T-shirts de Québec fort et fier. Puis tant mieux pour M. Marchand, mais nous, on va travailler puis on va faire en sorte aussi de faire connaître nos idées à tout le personnel féminin. Et encore une fois, je le dis, si j'ai pu froisser certaines personnes, je m'en excuse, ça a été fait de façon bien involontaire.
Ben, tant qu'à parler de M. Marchand a fait une sortie hier que je me suis rendu. Puis je peux vous dire, le ton avait changé. Beaucoup, beaucoup de critiques à votre égard. Est-ce que vous avez l'impression d'être rendu l'ennemi numéro un de Bruno Marchand?
Absolument. M. Marchand, il les voit, les sondages. Il les voit. Hier, le sondage, c'est Québec fort et fier qui a fait faire ce sondage-là par ça. Mm-hmm. Puis en ont d'autres en main. Et ils voient présentement Respect citoyen qui est en montée. Et c'est sûr. Dites-vous une chose, si on ne parlerait pas de moi, c'est parce que je ne dérangerais pas. Alors à partir du moment où on commence à parler de moi, c'est parce que je dérange. Et puis ça, c'est pour nous, c'est bon signe. Puis on le sent sur le terrain aussi.
Bien là, Martin, justement, par rapport à ça, nous écrit « Hey, en lisant les lignes, dans le fond, Stéphane Lachance propose à Sam Hamad de prendre son parti politique. Si vous êtes en montée puis Sam Hamad est en descente? »
Non, c'est pas non, c'est pas ça. Non, on n'est pas dans la bonne direction. Je sais que vous aimeriez ça, ça arrivera pas.
J'essaie de tous les moyens.
Non, puis il faut faire attention parce que, il faut respecter tout le monde. Mais je le dis encore, ce qu'on amène sur la table, c'est une proposition qu'on amène en tout respect. Puis moi, je veux dire, même si on a des différences au niveau de notre vision, je veux dire, j'enlèverai jamais au fait que M. Hamad a été 12 ans politique provinciale. Il a été ministre responsable de la capitale nationale.
Vous êtes rendu trop gentil avec Sam Hamad. Il a anguille sous roche. Ben oui, vous êtes rendu trop gentil parce que vous aviez dit ça à mon collègue Max Larouche.
Ah oui, sors-moi ça.
Les citoyens vont dire aux policiers.
Pas ça, là.
Non, ça, c'est lui.
Sortir Marchand
pour sortir Marchand, c'est une chose, mais c'est pas. Je veux dire, on a des idées qui sont. Oui, sur certains points, on se rejoint, je le nierai pas. Mais il y a des choses où on n'est pas du tout au même endroit. De la façon de procéder aussi. Ouais. Puis c'est, malheureusement, cette démarche-là, c'est il y a un an que ça aurait dû se produire. Nous, on l'a fait, cette démarche-là. Ouais. Nous, on est là depuis le 4 juillet 2023. On a eu des rencontres à 4 reprises avec M. Hamad. Par la suite, on a rencontré aussi certains de ses organisateurs. On leur a parlé de tout ce qui se passe actuellement. On leur a tout expliqué ça. Et malheureusement, on n'a pas été capable parce que, pour différentes raisons, là, qui seraient longues à expliquer, mais on n'a pas été capable de conclure. C'est sûr que d'avoir le maire sortant contre un seul candidat, ça aurait été le monde idéal. Oui. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vie, malheureusement. On a plusieurs points où on diffère beaucoup, entre autres sur le projet de mobilité. Je veux dire, M. Hamad, ça arrive avec un projet de SRB+, à 4,2 milliards.
Fait que vous avez dit sortir Marchand pour
il est bon,
sortir
il est vraiment
Marchand.
Bon, ce gars-là. Il est sérieusement, c'est un bon commentaire. Ouais.
Fait que là, pourquoi sortir Marchand pour sortir Marchand, c'est rendu à priorité?
Non, mais c'est une question de stratégie. Là. À un moment donné, il faut être stratégique aussi. Il faut penser aux citoyens Québec. Il y a beaucoup de monde là, qui veulent un changement à l'hôtel de ville. Puis il faut être conscient aussi que, je veux dire, on a quand même le fait que depuis 87 ans, c'est jamais arrivé qu'un maire en fonction perde son poste. Alors, il y a quand même un défi. C'est pour ça que je le dis souvent lorsque je prends mes allocutions. Le 2 novembre prochain, les citoyens Québec ont un rendez-vous avec l'histoire. Et ça se peut que vous pourriez dire, peut-être que vous étiez présent, vous vous souvenez peut-être où vous étiez dans un moment précis, mais vous allez dire le 2 novembre où j'étais lorsque, depuis 87 ans, c'était jamais arrivé qu'un maire perde son poste. Mais ça va peut-être arriver le 2 novembre prochain, puis on l'espère.
Fait qu'un cas, cette rencontre-là, là?
Dans la journée en tant que telle, ils sont en contact.
Dans la journée?
Ouais, ouais,
ça veut dire qu'on va avoir des nouvelles en fin de semaine?
Peut-être.
Pendant le long week-end?
Ou peut-être qu'ils vont penser à ça durant le week-end. Je sais pas trop. Je peux pas répondre.
Parce que là, je sais que ma blonde m'écoute, chérie, tu sais, si jamais il y a une conférence de presse Respect citoyen, Leadership Québec, je vais y aller. OK? Mais je t'aime beaucoup.
Le but, c'est d'être proactif puis de penser aux citoyens. Puis c'est, en tout cas, nous, c'est notre intention. Parfait. Puis on verra pour la suite.
Donc, ça a changé depuis 2 semaines avec ce que je vous ai fait entendre.
Ben non, en réalité, tout ce que je dis là, je suis toujours d'accord. Il y a des différences où on n'est pas sur le, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais on essaie de trouver un compromis pour faire en sorte que les citoyens sortent gagnants, puis de provoquer vraiment un changement. Parce que moi, je veux dire, les gens font souvent l'addition là, de nos deux scores du dernier sondage, ce qui ferait 31% versus 29, mais moi, c'est pas vraiment de cette façon-là que je calcule.
Oui, parce qu'il peut avoir de la grogne quand
même. Oui, puis il y a des gens qui peuvent aller appuyer d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 21% d'indécis. Ces gens-là, je veux les convaincre,
c'est sûr,
je veux les amener. Puis si je suis capable de les convaincre puis dire que Respect citoyen, c'est le meilleur véhicule pour porter leurs idées, c'est mon but ultime à ce niveau-là.
Je termine là-dessus. Est-ce que, justement, ça fait partie de vos pensées de dire « Ouais, il va y avoir de la grogne, puis peut-être qu'ils pourraient en avoir 3-4 qui sortent sur la place publique, puis là, je vais être pogné à gérer de la chenoute plutôt que gérer, parce qu'on se le cachera pas, mon élan que j'ai à l'heure actuelle? »
Non, pas dans la proposition qu'on a faite. Non, je suis très à l'aise. Je pense qu'on a trouvé une solution qui ferait en sorte que tout le monde y trouve son compte. Puis je pense qu'on verra la réaction, puis ils peuvent peut-être rejeter ça du revers de la main, puis ça leur appartiendra. Ils sont libres de le faire. Mais en tout cas, on a essayé de trouver une solution qui était respectueuse, puis qui donnerait, bien sûr, un nouvel élan à la campagne. On verra par la suite qu'est-ce que sera la décision.
Stéphane Lachance, merci beaucoup d'être passé. Grand plaisir, toujours un plaisir. Dans l'émission d'En Jase, on se refait signe en fin de semaine?
Sans problème, tu as mon numéro de téléphone.
Ben oui, puis toi aussi, tu as le mien. Fait que je te mette une conférence de presse, n'hésite pas à me texter.
Merci beaucoup.
Je vais me rendre disponible.
Parfait.
Cool. Salut Stéphane. Merci. C'était Stéphane Lachance, chef de Respect citoyen. C'est vrai, tantôt, il y a des gens qui demandaient si ça serait Respect, c'est Leadership Québec. Respect Québec ou Leadership citoyen? Lequel t'aimes mieux?
J'ai aucun commentaire.
J'aime ça filer mes entrées avec une petite touche humoristique. Donc, c'était Stéphane Lachance, chef de Respect citoyen, candidat à la mairie, peut-être chef de quelque chose d'autre, et candidat à la mairie toujours, mais de quelque chose d'autre à compter dans la fin de semaine. La porte est ouverte pour les discussions avec Sam Ahmad. J'ai vu pendant que Stéphane parlait sur la télé LCN que Sam Ahmad n'a pas fermé la porte. C'est les informations que j'ai eues ce matin également. Et on a Émilie Pelletier du Soleil qui va discuter avec nous, là, justement, qui était au point de presse de Sam Ahmad très bientôt. Et on a également notre chroniqueur politique que Stéphane connaît bien, Irénée Rutema, qui va être avec nous aussi pour nous faire le bilan de cette semaine folle en politique municipale. C'est-tu le fun pendant qu'à Montréal, ils s'endorment sur leur campagne? Nous autres, à Québec, on a de la
vous êtes choyés, là, à Québec, là. Honnêtement, là, les journalistes à Montréal, là, honnêtement, ils vous envient totalement.
Clairement, on parle avec Lambert Drainville régulièrement, puis c'est plate à Montréal, tellement que je suis Québec. Fait que c'est-tu bien fun, ça? Merci justement, Stéphane, de faire partie de ce débat démocratique. On fait une courte pause, mais avant circulation, Mathias.
Oui, juste vous dire qu'Arcat, direction sud, présentement, le trafic pour prendre Pierre-Laporte, ça remonte jusqu'à Boulevard-Charest. Boulevard-Charest, direction est, c'est entre Henri IV et Robert Bourassa, le ralentissement. Capitale, direction est, ça se situe entre Henri IV et Robert Bourassa, lourd ralentissement dans le secteur. Laurentienne, direction sud, cette fois-ci pour prendre Henri IV, ralentissement à prévoir. Et Lavant, direction ouest, entre Président Kennedy et Chemin des Îles présentement. Si vous avez des informations, 418-971-1021.
Martin qui me dit « Hey, j'ai raison, Jeff Wright, ben oui, t'as raison. Stéphane Lachance est dans un élan, Sam Ahmad est dans une décroissance. C'est clair que Stéphane Lachance dira pas à Sam Ahmad « Prends les rênes, mon ami. » Ben non, Stéphane Lachance va faire une proposition à Sam Ahmad pour que les meilleurs candidats qui ont le plus de chances de gagner dans chacune des, je vais appeler ça circonscription, mais c'est plus des districts au niveau des élections municipales, gagne et que lui gagne avec eux. C'est ça la proposition qui va être faite, selon moi. C'est pour ça qu'on l'a entendu un petit peu bafouiller au début, puis c'est tout à fait normal. Là, c'est des négociations qui se passent en coulisses. Mais tu peux pas céder les rênes quand c'est toi qui as l'élan.
Oui, puis clairement, Stéphane Lachance voudrait être à la chefferie de ce... on sait pas trop ce serait quoi.
Leadership citoyen, je trouve ça plus beau.
On sait pas trop ce serait quoi comme entente, mais clairement, Stéphane Lachance voudrait pas céder le siège à Sam Ahmad. Sam Ahmad, je suis pas sûr qu'il voudrait le faire avec Stéphane Lachance non plus. Fait que j'ai du mal à me projeter comment les deux pourraient s'entendre. On l'a entendu sur le SRB, il semble pas très ouvert au SRB non plus. Là. Bon, c'était un peu plus ouvert qu'habituellement, mais c'était quand même fermé. Il disait, faut consulter les citoyens. Est-ce que dans ses propositions, il va avoir une clause de OK, on fait pas de SRB, mais on fait un référendum sur le SRB en cas de lien entre les deux parties? Peut-être bien.
Et son attaque sur Bianca Dussault était très stratégique également. Oui. Et je m'explique, quand on regarde le sondage par justement district, on se rend compte que la Couronne-Nord, dont Val-Bélair fait partie, à l'heure actuelle, il pourrait avoir des candidats de Québec fort et fier qui se faufilent. Et je m'explique, t'sais, un 22 % respect citoyen, un 21 % leadership Québec, puis pouf, un 23 % Québec fort et fier et on se faufile. Et Val Belair en fait partie. Donc, c'est pas pour rien. Là. Il a pas choisi d'attaquer Bianca Dussault par hasard parce qu'elle avait pris le micro aujourd'hui. Là.
Ben encore, c'est stratégique. Encore une fois, une division du vote qui pourrait avantager Québec fort et fier, puis... Bon, c'est peut-être pas ça du côté que Stéphane Lachance, on commence à voir, pas juste à la mairie, mais dans plusieurs districts, on commence peut-être à avoir des candidats qui viennent voir et qui disent « Écoute Stéphane, si tu pourrais conclure de quoi avec Leadership Québec, ben ça pourrait être avantageux pour nous autres. » Je sais pas, bon, là on spécule là, parce qu'on s'entend. Les modalités d'une telle union à ce niveau-ci de la campagne, quand que d'un côté on a 20 candidats puis d'un autre côté on a 21 candidats, ça semble presque impossible, honnêtement.
Exactement. Et tant qu'elle en parlait, Mathias, je te propose, on va aller rejoindre Émilie Pelletier qui vient de sortir de la conférence de presse de Sam Ahmad. Émilie, comment ça va?
Salut Jeff, ça va bien, vous autres aussi?
Ça va super bien. Et puis, est-ce que Sam Ahmad est ouvert à rencontrer Stéphane Lachance?
Écoute, tu as parlé d'une conférence de presse. Je trouve ça quand même... je trouve que c'est un grand mot pour ce à quoi on a pu assister cet après-midi. Écoute, M. Ahmad s'est présenté devant nous. Il entrait dans un débat quelques minutes plus tard. On nous a dit qu'il pourrait nous parler pendant une dizaine de minutes, donc de circonscrire les questions. Et je te dirais que l'enregistrement que j'ai pu faire dure un total de 3 minutes 10.
Aïe, c'était donc bien court.
Ça a été assez express, je dirais. Monsieur Ahmad, oui, a voulu rectifier, disons, certaines choses qui avaient été amenées dans le débat public par Monsieur Lachance. Donc, il a commencé par nous dire d'entrée de jeu qu'il serait candidat à la mairie le 2 novembre prochain. Il l'a répété à plusieurs reprises. Donc, il a clairement voulu, mettre le couvercle sur la marmite hein, pour éviter que la machine à rumeurs s'emballe. Donc, il sera le candidat à la mairie. Sous texte, ça veut dire que s'il y avait une alliance potentielle avec Respect citoyen, ça implique que ce serait Monsieur Lachance qui devrait se tasser, finalement, pour lui laisser la place. Et Saman ne le dit pas comme ça, mais c'est ce
mais
que
c'est
ça vous entend.
Exactement. Puis vois-tu, nous, on vient d'interviewer Stéphane Lachance qui le dit pas comme ça, mais on sent que ça étend d'être candidat à mairie.
Ben, en fait, c'est aussi l'impression qu'on avait eue plus tôt ce matin lors de son point de presse. Donc, ce que M. Ahmad nous dit cet après-midi, c'est que la demande est venue de Respect citoyen de rencontrer son équipe. Il dit ils nous ont appelés pour nous parler d'une proposition. Nous, on est ouverts à discuter. On va les entendre. Point final. On va les écouter. Il a dit par politesse. Visiblement, là, il y a encore plusieurs ficelles à attacher à travers.
On va les écouter par politesse. Ça a été des mots utilisés par M. Ahmad, par politesse.
Oui, par politesse, effectivement. Et il est resté assez flou quand même également du côté pour ce qui pourrait advenir des conseillers hein, des deux équipes. Parce que c'est sûr que là, c'est pas évident. Ils ont chacun une équipe de conseillers complète, en tout cas presque, pour ce qui est de M. Ahmad. Il en manque un dans un district, mais pour ce qui est du reste, donc on parle quand même d'une quarantaine de candidats au total. Il y a un dédoublement, et ce que M. Ahmad nous a dit cet après-midi, c'est que son équipe qui est là pour se présenter va se présenter. Alors, Leadership Québec semble pas vouloir faire de concessions dans les districts non plus.
Oui, puis habituellement, bon, je sais pas vous autres, mais moi, quand je dis « je vais écouter par politesse », ça laisse sous-entendre qu'il va pas nécessairement avoir une entente. Puis en plus de ça, M. Ahmad qui dit « non, nos candidats vont se présenter », on voit encore plus avec difficulté comment il pourrait avoir une quelconque alliance entre les deux parties.
Ben, effectivement, je pense qu'on est loin là d'une entente. On est loin de la coupe aux lèvres, disons. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup, vraisemblablement, de travail à faire. Et c'est un peu ce que nous disait M. Lachance hier lorsqu'on a pu lui parler. Il disait, c'est sûr que si on est pour s'allier à une autre formation politique, il va falloir que chacune mette de l'eau dans son vin. Hein? Et je pense que depuis le début, c'est ce qui achoppe, en fait. C'est que je pense que Respect citoyen a une volonté de s'allier. Je pense que du côté du clan Hamad, c'est plutôt ferme. Donc, M. Hamad veut être candidat à la mairie. Il veut que ses conseillers se présentent. Donc, par contre, ce que M. Lachance disait, c'est ben, si on va là, il va falloir que chacun fasse son petit bout de chemin. Et vraisemblablement, c'est pas ce qui est à la veille d'arriver, en tout cas.
Émilie Pelletier, merci beaucoup de nous avoir rapporté les propos de Sam Hamad. Ça continue à nous éclairer. Puis, si jamais dans ta voiture, tu veux mettre Boulevard 101, je sais que tu le mets régulièrement, là, c'est Irénée Rutema qui va venir nous parler de ceci pour terminer l'émission. C'est pas pire, hein?
Génial. Ben, une bonne analyse, effectivement.
Excellent. Émilie, toujours un bonheur. J'ai été très content de te croiser mardi à la Chambre des commerces et on se reparle bientôt.
Absolument. Bon long week-end.
Merci, toi aussi. Salut. C'était Émilie Pelletier du Soleil qui couvre la politique municipale de façon impeccable. Après la pause, Irénée Rutema, on revient justement sur cette possible fusion entre Leadership Québec et Respect citoyen. Restez avec nous. On vous raconte toujours cette belle actualité et prendre note que Boulevard 102.1 fête ses 10 ans le 22 octobre prochain des 17h au Malcommode au promenade Beauport 3333 rue du Carrefour à Québec. Lancement de la bière à la Gravelle, émission spéciale en direct et intronisation au Radio Hall of Fame de Denis Véro qui souligne leurs 20 ans de carrière ensemble. Exceptionnel duo. Musique live de Big Muff et un paquet de surprises. Et ça tombe bien, textez-moi vendredi, parce qu'on est vendredi puis qu'on se lance dans un long week-end. Et vous allez avoir la chance de gagner un laissez-passer double VIP pour cette superbe soirée au Malcommode. Alors, votre nom et textez-moi vendredi et vous courez la chance de l'emporter. Il fait fureur sur nos textos 418-971-1021. À chaque fois qu'il passe, les gens disent « On veut plus d'Irénée Rutema ». Il est avec nous en Zoom aujourd'hui. Irénée, comment vas-tu?
Ça va super bien, merci. Donc, je te vois, tu as l'air de bonne humeur aussi.
Ouais, je suis tellement de bonne humeur. Mais tu sais, Irénée, on ne se le cachera pas, j'ai la chance et le privilège de faire de la radio à chaque jour, du lundi au vendredi. Donc, comment ne pas sourire?
Et ça se sent quand tu parles, ça se sent, ah. les gens m'appellent, me textent, me disent que ça paraît que tu es de bonne humeur, que ouais. Tu es dans ton élément.
T'es alors, gentil, bravo. T'es vraiment, vraiment, vraiment gentil, Irénée. Irénée, Stéphane Lachance va proposer quelque chose à Sam Hamad. Émilie Pelletier a rencontré Sam Hamad, il dit « Je veux être maire de Québec ». Stéphane Lachance nous dit toujours qu'il veut être maire de Québec, mais aujourd'hui, en ondes, il a dit « Ouais, l'important, c'est de sortir Bruno Marchand puis d'empêcher le tramway. » Mais il me semble que moi, Stéphane Lachance est dans un élan, Sam Hamad est au ralenti. Je peux pas croire que Stéphane Lachance va laisser sa place à Sam Hamad.
J'ai lu ça ce matin. Je suis tombé à presque de mon lit, là. Et je ne comprends pas parce que on avait un bon sondage pour M. Lachance. Donc, il est dans un élan. Et le sondage léger que nous avons vu, a été fait avant le débat. Alors, moi, si je regarde les données, j'ai l'impression que le prochain sondage va faire monter M. Lachance et M. Sam Hamad va complètement descendre. Et je ne crois pas, sérieusement, là, généralement, un mariage, c'est pour le pire et...
Pour le meilleur et le pire. Pour le meilleur et pour le pire.
Pardonnez. Et ça, c'est un mariage pour le pire et pour le pire. Là. C'est définitif. Là, parce que M. Lachance a voulu, avec M. Hamad, se sont cruisés. Ils sont allés au souper après ça. Mais Sam Hamad ne voulait pas rencontrer les parents de M. Lachance. Donc, je parle des membres du Parti Respect Citoyen. Et là, maintenant que ça va mal, Monsieur Lachance commence à lui dire « Écoute, veux-tu venir souper avec nous ?» Mais je pense que ça ne marchera pas parce qu'il y a un candidat de Monsieur Hamad qui a dit que non, il n'ira pas au souper. Là. Il n'ira même pas à la messe. Donc, je pense que ça ne marchera pas. Je pense qu'il y a les candidats dans les deux partis qui font du porte-à-porte depuis longtemps, qui sont impliqués depuis longtemps, qui ne voudront pas céder leur place et je les comprends très bien. Et ce qui est plate à dire, c'est que tout ça fait que M. Marchand devrait passer facilement parce que là, pendant les négociations, M. Barcha marche vers la victoire et je ne vois pas comment son mariage va se concrétiser, là.
C'est ça.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile.
Ben moi, je suis d'accord avec toi, puis en même temps, je me dis, hey, écoute, là, t'as été un chef, tu t'es présenté, t'as recruté 21 personnes qui ont accepté de t'accompagner. T'as pas le choix de pousser ça jusqu'au bout. Tu peux pas tourner le dos à ça. D'autant plus que t'as ramassé de l'argent aussi pour ta campagne électorale. Il y a trop d'enjeux, selon moi, pour que ça se fasse.
Exactement. C'est ce que je pense moi aussi. Et sérieusement, là, si j'étais un conseiller de M. Lachance, je dirais, tu as eu un bon débat. En général, tu fais une bonne campagne, à part quelques erreurs dans sa campagne de séduction de l'électorat féminin qui serait magnétisé par le charme de M.
Hey, René, Stéphane Lachance vient de dire sur nos ondes, hey, je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire, je m'excuse, j'ai froissé des gens, tout ça, mais... Ça a peut-être sûrement été son premier faux pas de la campagne électorale, ça, là.
Ah, exactement. Moi, je pense sérieusement, là, il a été mal habile, il a été maladroit, il a manqué de finesse et d'élégance. Cela dit, dans le fond, il a raison parce que les partis politiques tiennent des données sur est-ce que quel pourcentage d'appui que j'ai chez les femmes, chez les hommes, chez les jeunes, chez les gens qui sont nés ailleurs, sur les diplômes des gens. Et donc, ce sont les données qu'ils ont. Et ils souhaitent toujours aller séduire la tranche de l'électorat dans laquelle ils ne sont pas populaires. Donc, il a été juste maladroit. On passe à autre chose et qu'on continue là. Mais vu, et c'est ça qui est très, très intéressant, vu que c'est un homme à abattre présentement, M. Marchand veut l'abattre, M. Marchand aimerait le séduire, M. Ahmad aimerait le séduire. Alors donc, chaque geste qu'il fait, chaque fois qu'il ouvre la parole, il est très, très surveillé. Et je l'ai vu hier sur ma page Facebook, là, les gens de Marchand, toute l'équipe, les fans, sont allés sur Facebook.
Ah oui,
ça n'a pas de bon sens, c'est machiste. Madame Smith est sortie, ses candidats ont dénoncé ça. Alors donc, pour moi, je pense que ça démontre que M. Lachance est sur un élan et que c'est le gars à abattre.
Irénée, on termine avec ceci, puis c'est une question d'un auditeur. Est-ce que tu crois que Lachance est prêt à trahir ses propres membres pour tenter de gagner?
Je ne crois pas. Sérieusement, j'en doute fortement. Et j'ai hâte d'écouter M. Samamad qui a dû...
Oui, Samamad a dit en conférence de presse très rapide, une allocution de 3 minutes 26, « Je veux être maire de Québec et je vais aller jusqu'au bout. »
Alors, je ne pense pas que M. Lachance, il va dire non aussi, il va retirer sa demande pour aller souper avec M. Ahmad. Donc, il va annuler la réservation au restaurant. Et M. Lachance, là, doit continuer sa campagne. Sa place est là. Et moi, en regardant le débat là, de lundi à la Chambre de commerce, je me disais, M. Lachance pourrait être un bon chef de l'opposition.
Oui, vraiment, je pense qu'il faut qu'il fasse les choses par étapes. C'est sûr qu'il essaie d'y aller plus rapidement, en raison qu'il est vraiment contre le tramway. Mais pour sa carrière politique, ce serait mieux pour lui qu'il fasse les choses par étapes. Et René, justement, on se recroise dans un événement près de chez nous de politique la semaine prochaine et on se parle vendredi prochain.
Parfait, excellent. Et si tu reçois une carte d'invitation souper de la chance et Ahmad, ouais. J'aimerais ça que tu m'invites, j'aime ça.
J'ai dit à Stéphane Lachance, tu connais mon numéro, texte-moi s'il y a quoi que ce soit qui se passe en fin de semaine. Je vais te texter aussi, René.
Excellent.
Après ça, on ira jaser de ça autour d'une petite bière à microbrasserie.
Excellent. Moi, j'aime ça, la bière. En plus, il fait encore beau.
Ah, magique.
On se fait une séance de terrassothérapie, comme je le dis.
Excellent. Salut, Irénée. Merci toujours pour ta participation. Salut. Salut, Irénée Rutema.
Bonne fin de semaine à vous. Bye.
Bonne fin de semaine, Irénée Rutema, que vous pouvez entendre avec nous à chaque vendredi sur la politique municipale. Mathias, il nous reste un petit 30 secondes. Parle-nous donc du Canadien de Montréal.
Oui, grosse victoire du Canadien de Montréal hier, 5-1 face aux Red Wings. Prochaine rencontre ce samedi face aux Blackhawks de Chicago. Les Blue Jays qui seront également en action en fin de semaine, dimanche, face aux gagnants du match de ce soir entre les Tigers et les Mariners. Je veux juste attirer votre attention rapidement sur la route. J'ai plus beaucoup de temps, mais présentement, Henri IV, direction sud, là, pour prendre le pont Pierre-Laporte, c'est le bordel. Là, ça remonte jusqu'à Wilfrid Hamel. Si vous avez des informations, 88-971-1021.
Félicitations, Michael Tanguay. Tu te mérites tes laissez-passer double pour Boulevard qui fête ses 10 ans. Soyez à l'écoute ce week-end de Boulevard. C'est notre programmation habituelle. C'est le Garage à Dan D. Ce soir, 18h, Boulevard du Rock avec Dan et avec Colosse. Donc, Dan samedi, Colosse dimanche et lundi. C'est justement de 10h à 15h. Et le rack à mat de 15h à 18h. Et pour cette fin de semaine, c'est un spécial chill out. On chill avec l'Action de grâce. Il y aura plusieurs chansons acoustiques, notamment de Nirvana Unplugged. Donc, soyez à l'écoute de Boulevard 102.1 ce week-end. Et nous, on est de retour en ondes avec la programmation régulière. Parlez mardi matin dès 6h avec Marceau le soir. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant. Bye-bye. Bon long week-end, guys.
Bonne fin de semaine.